Parler, c'est déjà avancer. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM, il est 22h, c'est votre heure, c'est la nôtre, c'est l'heure de Confidence. On y va, 01 53 48 3000, le standard est ouvert pour vous, rien que pour vous. Et c'est Nicolas qui vous recevra, comme chaque soir, avec son sourire et sa gentillesse. Et Nicolas réalisera également cette émission. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous.
Tout va bien ?
Mais oui, on approche tout doucement du week-end, tout va bien.
Ça ne pourrait
pas aller mieux.
Ah oui, à grands pas même. Et puis peut-être du soleil demain, peut-être.
Ça serait bien.
Ben ouais, ce serait pas mal, hein. Premier week-end printanier, voilà. Allez, 01 53 48 3000, bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et on va tout de suite passer aux petites pensées du soir avant de vous donner la parole. Donc une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà. Eh bien, elle avait promis, elle a tenu parole, hein, puisqu'elle est là. Ce soir, elle est la première à nous appeler. Elle est arrivée vraiment la dernière minute hier soir. Elle n'a pas eu le temps d'exposer son sujet, hein, son témoignage. Et je lui avais suggéré de nous rappeler ce soir dès 22h. Elle l'a fait. Moi, j'aime les gens de parole. Bravo, Hassina. Bonsoir.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue à toi. Oui, très
merci,
bien. Je te remercie.
Je voudrais juste corriger un petit truc. En fait, je m'appelle Nassima et pas Hassina.
Ah, c'est Nassima. Bon.
Oui.
Tu peux pas changer de prénom juste comme ça.
Non, non, j'ai pas changé de prénom, non, mais je pense que Nicolas l'a mal noté.
Ah, il a mal entendu peut-être. Tu sais, le téléphone, c'est raison, donc on comprend
pas. C'est pas grave, mais c'est pas grave.
Bon, ben Nassima, c'est rectifié en tout cas, Nassima.
Voilà.
Donc, alors.
Moi, je voulais rebondir.
Tu nous appelles d'où déjà ?
De Lyon.
De Lyon, très bien, comme ça on sait. Alors, je te laisse, l'antenne est à toi, vas-y.
Voilà, moi je voulais rebondir sur cette histoire, parce que moi, depuis que je suis arrivée en France, j'ai pas cessé d'entendre cette question, est-ce que vous avez du mal, Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre. Et parce que ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Et pourquoi
excuse-moi, Nassima, tu n'as pas mis le haut-parleur. Rassure-moi.
Non, en fait, attendez.
Ni les oreilles, là, les machins, les oreillettes, ou je sais pas comment vous appelez ça. Rien dans les oreilles. C'est bon, là ?
C'est mieux ?
Bah écoute, pas de haut-parleur ?
Non.
Pas de radio d'allumé et pas de kit main libre non plus.
Non.
C'est juste le téléphone.
Voilà, c'est juste
normal,
le téléphone.
Comme avant.
Oui.
Bon,
oui.
Très bien. Alors, je te laisse continuer. Donc, tu as dit depuis que tu es arrivée, tu entends toujours la même question. Il y en a une.
Oui. Est-ce que je suis musulmane ? Est-ce que je suis musulmane ? Ouais. Et donc hier soir, quand j'ai commencé donc à aborder le sujet, j'avais parlé des croyants et tu m'avais reproché en fait de ne pas parler des non-croyants, tout simplement parce que les non-croyants ne posent pas de problème.
C'est pas reproché, jamais... c'était juste.
Voilà. Non, mais ils ne posent jamais de problème. Je veux dire, ceux qui posent problème, c'est les croyants. Peu importe la religion, monothéiste ou pas, d'ailleurs. Mais vraiment, moi, j'ai grandi dans une famille.
Oui.
Dont le père est non-croyant, mais vraiment non-croyant.
Oui.
Tout simplement.
Et non pratiquant.
Et dans la maman, et non pratiquant. Alors vraiment, aucune relation avec toutes sortes de pratiques religieuses. Ça lui dit rien du tout. Et ma maman, par contre, était pratiquante. Elle faisait ça. Elle fait sa petite prière.
Voilà, d'accord.
Voilà, mais tranquille. Mais je n'ai jamais eu de problème dans ma vie, en tout cas dans ma famille, par rapport à ça. Au contraire, les deux m'ont appris, en fait, depuis mon jeune âge, à apprécier ces choses importantes dans la vie. Je veux dire, j'accompagnais mon père dans la montagne. Il m'apprenait à accueillir les champignons, les asperges, les noms des plantes, des oiseaux. Il m'apprenait à écouter les oiseaux. Donc, en fait, j'ai eu une douce enfance.
C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Comment tu
l'as fait ? J'ai reçu une éducation humaine. Et on m'a donné, pour ne pas parler que de lui, on m'a donné les moyens et les outils de me chercher ensuite.
Oui. De développer ta personnalité, de la laisser s'exprimer.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on m'a jamais rien imposé.
Oui.
Et donc, dès que j'ai atteint un certain âge, donc à l'adolescence déjà, j'ai commencé à me chercher, je lisais, j'essayais de comprendre l'islam, pas l'islam,
par
Dieu,
toi-même,
prophète.
Par toi-même.
Voilà, c'est voilà. Bien, j'ai pas voulu suivre. Parce que justement, on m'a laissé cette occasion. On m'a laissé en fait le choix de choisir et de chercher à comprendre. Je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a imposé des pratiques ou une religion ou quoi que ce soit. On m'a transmis des valeurs morales que je respecte toujours, peu importe où est-ce que je serai dans le monde. Mais après, c'est les outils en fait. C'est les outils qui sont importants parce que c'est ça qui reste.
Oui.
Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, j'ai cherché à comprendre. Et avec le temps, j'ai compris. Et d'ailleurs, il y a un livre que je recommande aux auditeurs, le livre de Maurice Bucaille, qui, en fait, fait une analyse scientifique, j'ai envie de dire, et une comparaison entre les différentes religions et la science. Et j'ai compris, en fait, à partir de là, que c'est la même chose. Et puis même dans notre religion, nous, en fait, on dit bien « Kan Abraham ou Musliman Hanif », c'est-à-dire qu'on est quelque part musulman depuis Abraham. Et donc, ça n'a pas de sens aujourd'hui de distinguer entre musulman, juif et chrétien. Et je ne sais quoi. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le même Dieu, c'est les mêmes religions, c'est les mêmes recommandations. Après, ça dépend du temps, de l'époque, ça dépend des besoins du peuple pour qui le message a été envoyé.
Très important de parler d'époque, voilà, parce que là tu contextualises.
Voilà, l'époque diffère, bien sûr. Donc s'il y a des différences au niveau des messages, c'est vraiment parce que l'époque était différente, les populations étaient différentes, les besoins étaient différents. Et donc, c'est là que...
Ouais, c'est plutôt après, historique, hein, finalement,
voilà,
les écritures.
Voilà,
les
écrits, il y a surtout l'interprétation. Il y a surtout cette histoire d'interprétation. La façon d'interpréter. Et je me dis qu'aujourd'hui, on a plus les moyens et les outils de faire une meilleure interprétation des textes donc coraniques ou bibliques ou autres qu'il y a plusieurs centaines d'années. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit de cliquer sur un bouton et tu as tous les mots, par exemple, qui apparaissent dans le Coran, dans la Bible, avec la référence. Alors qu'avant, c'était pénible de faire une recherche ou de faire une fatwa et de faire je ne sais quoi. Et donc moi, je voudrais qu'on... C'est un peu utopique, mais je voudrais qu'on arrive un jour à parler de croyants et de non-croyants, et pas de musulmans, chrétiens, juifs, parce qu'au final, on croit tous en un Dieu. Et après, même ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas croyants, ben c'est un choix. Il faudrait arriver à respecter ça et ne pas rentrer dans cette intimité-là, ne pas rentrer dans ce détail-là, parce que ça ne concerne que la personne. Et même si certaines personnes ont ce sentiment d'être privilégiées chez Dieu, j'ai envie de dire...
Alors ça, quelle arrogance.
Oui,
tu entends les indignes.
On la sent.
C'est nous qui avons droit au paradis, pas les autres. Ça, c'est de l'arrogance.
Voilà.
Pure.
Alors vraiment, vraiment, c'est une chose qui me met hors de moi parfois. Et j'ai longtemps vécu en Algérie.
Oui.
J'ai grandi, fait mes études, travaillé en Algérie, donc je me suis beaucoup heurtée à ce genre de problème.
Oui.
Et ça m'a vraiment, et ça me mettait vraiment hors de moi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Personne n'est privilégié.
Ah, mais non, mais c'est.
Pas parce que. J'ai envie de dire, on est tous égaux, et c'est pas parce qu'on prie pas, qu'on a une barbe, qu'on n'a pas une barbe, la pudeur est demandée pour tout le monde. Et puis autre chose, il ne faut plus rentrer dans ce détail. Vraiment. Apprenez, donnez à vos enfants le moyen de se chercher. Apprenez-leur à ne pas suivre comme des moutons ou comme des chèvres ou ce que vous voulez. Mais donnez-leur le moyen de se construire. Parce que si vous leur imposez quelque chose, demain, à la première, c'est-à-dire à la première occasion où ils se retrouveront seuls, ils seront perdus. Ils seront perdus.
C'est pas fou.
Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont
c'est pas,
pas
faux,
les moyens de
c'est, se... c'est pas faux. Parce que finalement, quand on vient au monde, pour un petit peu philosopher, quand on vient au monde, eh bien, on vient avec notre libre arbitre, on est neutre,
oui.
D'accord ?
Oui.
Déjà, l'image du bébé qui vient au monde, du nourrisson nu, hein, on vient nu, donc on vient vraiment, comme on est nu physiquement, hein, visiblement, eh bien, oui. Nous sommes aussi nus dans notre cerveau, dans notre esprit, et le cerveau, c'est une éponge à ce moment-là, et il va absorber tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, s'il tombe dans une famille... Alors, parce que souvent, il dit, oui, c'est, voilà, bénédiction, machin. Alors, s'il tombe dans une famille, disons, elle est aborigène, hein, d'Australie, oui, ou... j'aime bien prendre ces exemples-là, parce que...
Oui, ça, mais c'est vrai,
tu sais, ça, personne...
Pour démontrer.
Voilà, et personne ne va se sentir ni lésé, ni ciblé, ni quoi que ce soit. Que c'est, voilà, alors, donc, c'est une métaphore. Et une métaphore qui est en plus avérée. Alors, donc, quand un nourrisson vient au monde, s'il vient dans une famille, dans une tribu d'Indiens, d'Amérique, aborigènes, d'Australie, ou Papou, que sais-je encore, hein, d'accord ? Donc, ces personnes qui vivent nues dans les forêts et qui ont plusieurs croyances, hein, enfin... Qui ne sont pas monothéistes, qui croient, par exemple, en la force du vent, au dieu du vent, du soleil, de la terre, de l'arbre, de tout ce que tu veux, de la feuille qui tombe, eh bien, qui ne sont pas plus idiots que nous et que d'autres. Je suis désolée.
Non.
Je termine. Celui qui croit en quelque chose, qui croit en un dieu, en islam. C'est le même que les chrétiens, les juifs. Mais alors tout le monde dit c'est le même, mais tout le monde se l'accapare. Bref. Alors donc que celui, ah oui, on est dans la contradiction en tout cas. Alors donc que celui donc qui croit en une religion monothéiste, en un dieu monothéiste, et celui qui croit comme les ceux que je viens de citer, les Indiens, etc., les Papous, eh bien. Les uns ne sont pas plus idiots que les autres parce que les deux formes de croyance croient en quelque chose de toute façon. Alors donc il faut pas se sentir au-dessus des autres parce qu'on sait pas qui a raison, qui est dans le vrai ou dans le faux. Alors donc voilà, il faut toujours laisser une part de doute. Alors alors je vais jusqu'au bout de mon argumentation, je te dis.
Oui.
Alors et ceci dit, eh bien alors ce que je voulais dire par là, c'est que quand on vient nu, c'est ça, voilà, c'est ma philosophie à moi. Quand on vient nu au monde, notre cerveau est nu également. Il est neutre, il est transparent. Oui. Il demande qu'à apprendre. Alors t'imagines un bébé qui tombe dans ces familles que je viens de citer, dans les forêts, etc. Bah qu'est-ce qu'il va faire? Bah c'est pas son libre arbitre. Il va absorber, il va tout apprendre de ce que ces personnes vont lui apprendre, hein, ces civilisations, hein, parce que voilà, vont lui apprendre, voilà. Donc il va apprendre ce que ses parents et la tribu va lui apprendre. Et lui, la vérité est là. Pour lui, la vérité, elle est là et nulle part ailleurs. Elle est dans ce qu'on lui apprend. Et voilà, il peut pas croire en un dieu, en Allah ou Jésus ou Moïse, il peut pas, c'est pas possible. Pour lui, si on lui parle de ça, c'est comme si on lui parlait des Martiens. Pour lui, il est tombé dans une famille, dans une contrée où on croit à ces formes de croyances, les dieux des vents et de tout ça, les plusieurs dieux. Et du feu, il va croire en ça. Et lui, marcher nu, c'est normal. Voilà, c'est la normalité. Alors, c'est ça qui est normal. Alors, donc, ceux qui disent posséder la vérité en disant « Nous, c'est nous qui possédons la vérité. » Mais que dire de ces peuples qui ne connaissent même pas votre civilisation ? Ils ne savent même pas que vous existez. Ils savent qu'il y a des gens qui existent et qui croient en autre chose, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et puis, ils ne sont pas nés dedans. Donc, pour eux, ça ne leur parle pas. Donc, si dans vos écrits à vous, eh bien, on vous dit qu'il y a un paradis, il y a un enfer, etc., dans leur croyance à eux, dans leur transmission orale, on ne leur dit pas la même chose. Donc, eux, c'est leur paradis, peut-être, qui n'existe pas, ou qui est sur Terre, ou j'en sais rien. Donc, où ils ont plusieurs vies. C'est comme dans certaines religions, où on croit à la réincarnation. Donc, ça se respecte également. Donc, voilà. Alors, vous ne pouvez pas inculquer à quelqu'un, lui mettre ça dans la tête, ou alors vous mettre à sa place. Chacun vit sa réalité. Un musulman, il est musulman par la force des choses, pardi. Mais regardons les choses telles qu'elles sont. C'est pas son choix propre. Un juif, c'est pareil. Un chrétien, c'est pas leur choix. Ils sont nés dans des familles juives, chrétiennes ou musulmanes. Ben, ils avaient pas le choix. Un bébé, quand il est né, on le circoncit. Ben, on lui demande pas son avis. Qu'il soit juif ou musulman, on lui demande pas son avis. Plus tard, on lui a dit, ben, on t'a circoncis. Ah bon, pourquoi? Eh ben, t'es musulman. Ah bon? Ben, je sais pas, vous m'avez demandé mon avis? Non, mais c'est comme ça. Et pas autrement. Alors, donc, le libre arbitre n'existe pas. Il existe dans la nature. C'est vrai, la nature nous met au monde, nous donne cette vie, l'univers, la nature, Dieu, tout ce que vous voulez. On vient au monde avec, normalement, un libre arbitre. Mais les hommes, quand je dis les hommes, les êtres humains, vous prive de ce libre arbitre parce que ils vous happent, ils vous le volent et quelque part ils volent votre destin puisque c'est eux qui écrivent votre destin. Quand tu nais une personne qui naît dans une famille juive, il a pas le choix, donc il va croire en la Torah, etc. Sa famille va le circoncire tout petit et puis par la suite on l'emmène à la synagogue et tout ce qui s'ensuit, la bar mitzvah, tout ça. Donc il a aucun libre arbitre. Il est juif parce qu'il n'a pas le choix. Et un chrétien, c'est exactement la même chose. Hein. On l'emmène à l'église, on le baptise, on lui met de l'eau bénite, etc. Il n'a rien demandé. Et par la suite, il croit que c'est lui qui a choisi, il est heureux. Hein. Alors donc, pas du tout, tu n'as pas le libre arbitre. Et comme c'est du conditionnement, tu as grandi là-dedans. Et un musulman, c'est exactement la même chose. Après, certains réfléchissent autrement, en se disant, bon, je vais essayer de comprendre par moi-même, mais c'est compliqué. C'est hyper compliqué, et sachant que le cerveau est une éponge quand on vient au monde, et que c'est dans la prime enfance jusqu'à l'âge de 7 ans que tu apprends tout, absolument. Et après, c'est très compliqué de pouvoir désapprendre. Il y en a qui font l'effort, mais c'est voilà, il y en a pas beaucoup, ou alors ils le disent pas. Mais quand on naît dans une famille de telle religion, de telle culture, de telle tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix, vous êtes tombé dedans. Et quand vous êtes tombé dedans, on vous a pas donné le choix. Et ça s'appelle quoi? Il y a un nom, hein? Il y a un nom. Oui, ça porte un nom. Ça s'appelle de l'endoctrinement. On a du mal à l'accepter. Oui, et oui, mais on a du mal à l'accepter. Parce que les gens, quand tu leur dis ça, ils disent, ce truc fait là, non. Mais si, c'est de l'endoctrinement. Un enfant, quand tu lui dis, c'est comme ça, et tu fais ramadan, et tout petit, et t'es musulman, et tu apprends, prends la prière, et prends le tapis, etc. Ou chez les juifs, on lui fait la bar mitzvah, et tout. Il est happé. Il peut pas échapper. Et un chrétien, c'est pas, ils peuvent pas échapper. Donc, ce qui fait que tu grandis là-dedans, eh ben, moi, je vais vous dire une chose, je suis persuadée que pour une grande partie, eh bien, ils sont obligés de faire semblant. De faire semblant que de continuer comme ça. Pourquoi? Parce que sortir du groupe, eh ben, c'est dangereux de sortir du groupe. Pas dangereux, ils se font tuer. Si, dans certaines contrées, oui. Alors là, oui, ça l'apostasie, ça c'est violent, hein. Ça c'est violent, oui. Il faut le dire. L'apostasie mène à la condamnation à mort dans certains pays. Heureusement que aujourd'hui, eh bien, en France, etc. Bon, c'est des lois, des règles qui n'ont rien à voir de avec la religion. Mais dans certains pays, l'apostasie, par exemple, on va pas loin. Dans les pays du Maghreb, l'apostasie, on te pend pas, on te tue pas. C'est pas l'Arabie Saoudite, mais néanmoins, si tu es apostat, si tu dis je me pose des questions, je suis en doute, j'ai pas demandé à tomber dans une famille musulmane, donc je me pose des questions et peut-être que je crois pas trop comme vous croyez, eh bien tu sais ce qui se passe. Peut-être qu'on les tue pas dans les pays du Maghreb parce que la peine de mort non, mais par contre on les met en prison pour délit d'apostasie. Pourquoi? Tu ne crois pas, donc oui. Tu quittes la religion? T'as juste envie de leur dire: non, je ne quitte pas la religion. Vous m'avez imposé quelque chose qui m'est sans que je demande rien. Un petit enfant, un petit enfant qui vient au monde, on lui impose des choses. Aïe, voilà. Alors donc vous m'avez imposé. Je n'avais pas le choix. Et à un moment donné, eh bien je réfléchis différemment, ou alors tout simplement j'ose dire les choses que les autres ne disent pas. Le groupe n'ose pas parler de peur d'être pointé du doigt, parce qu'il y a bon nombre de gens qui vont dans les mosquées pour faire mine, pour faire le vendredi, etc. Oui. Pour faire comme le groupe, tu vois, pour être accepté par le groupe, par la cité, parce que pour ne pas être un renégat, etc. Donc ils font voilà. Mais néanmoins, celui dans les pays du Maghreb qui dit qu'il ne croit pas, parce qu'il a le doute et qu'il s'est rendu compte que il y a des choses qu'il n'arrive pas à avaler, ça ne rentre pas dans son esprit, et que parce qu'on lui a imposé à sa naissance et qu'aujourd'hui il réfléchit par lui-même, tu sais ce qui se passe ? Eh ben on le met en prison. Voilà le libre arbitre. Alors donc après on te dit, mais il n'y a pas de contrainte en religion. La religion, mais tout est beau, tout est apaisé, mais on peut tout faire, on peut, mais on est libre. Mais elle est où la liberté ? Si vous imposez aux gens, si vous leur imposez de ne pas se poser de questions, d'être dans le doute, ou alors d'en sortir, et c'est leur droit. Donc si vous leur imposez pas, si vous leur imposez de rester malgré eux, hein, ou de faire semblant de jouer les hypocrites parce que par crainte de représailles, eh bien, il y a de la contrainte en religion. Quand on regarde, quand on écoute les gens, quand on entend les gens, quand on voit comment que ça se passe, il faut enlever ses œillères et puis arrêter de jouer les hypocrites. Il y a de la contrainte à partir du moment où on n'a pas le droit d'en sortir par son propre gré et parce que on a une épée de Damoclès, parce que si on dit on ne croit plus, on ne croit pas, tout du moins, eh bien, on te dit tu es sorti. Alors que toi, peut-être, tu n'es jamais rentré. On t'a rentré de force dedans. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, et je rejoins parfaitement ton avis, mais il y a aussi l'effet inverse. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans le Maghreb, on se retrouve dans ce genre de famille et on n'arrive pas trop à en sortir. Si on n'a même pas le droit de se poser des questions. Mais ce que j'ai remarqué en voyageant, c'est que, à l'étranger, la communauté musulmane, en fait, est majoritaire. J'ai pas envie de généraliser, mais je décèle chez eux, chez ces gens-là, un besoin d'appartenance. Ils ont besoin d'appartenance et ils ont besoin d'appartenir à une communauté quelque part. Et ils se sentent pas français, ils se sentent pas anglais, ils se sentent pas. Et donc ils s'inventent une communauté, la communauté musulmane. Donc ils connaissent rien à la religion. Et je généralise pas, je le dis encore, mais voilà, ils changent de tenue, ils changent de coiffure, ils deviennent pratiquants par besoin d'appartenance. Et puis, moi, quand tu parlais tout à l'heure de doctrine, moi, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai toujours dit dans mon entourage, parce que pourquoi ne pas parler de foi? Pourquoi parler de religion? Moi, le mot religion me fait mal aux oreilles, parce que j'entends ça comme une doctrine, parce que c'est le cas. Il y a eu des événements qui m'ont marqué dans ma vie. Moi, j'ai une santé assez fragile et je me rappelle que j'étais partie de mon petit village en Kabylie. J'avais pris le bus pour Alger et sur la route je me suis sentie mal, donc arrivée à Alger je rentre dans un magasin et j'achète une petite bouteille d'eau. Je ne peux pas vous décrire l'hostilité à laquelle j'ai eu droit ce jour-là en achetant une petite bouteille d'eau un jour de Ramadan. Donc c'est des choses vraiment qui sont choquantes mais qui sont normales pour les gens de là-bas, alors que c'est pas du tout normal. Non seulement je ne suis pas obligée de jeûner même en étant en parfaite santé, mais tu ne sais pas aussi.
Mais ma chérie Nassima, il n'y a pas de contrainte en religion.
Il y en a beaucoup.
Alors écoute-moi bien, ce que tu viens de décrire, cette année, tous les ans, ça a lieu. Hein. Alors cette année, durant le mois de Ramadan, en Algérie, alors des étudiants censés apprendre la connaissance zama-zama, tu vois. Donc, je te raconte pas le reste, hein. Oh punaise. Alors donc, dans une université bien connue d'Alger, des jeunes qui font pas Ramadan et c'est leur droit le plus absolu, eh bien qui ne mangent en plus, qui se cachent pour manger parce qu'ils veulent pas le faire ouvertement, n'est-ce pas? Eh bien se sont fait tabasser. Et dans le même mois, c'est-à-dire ce mois de Ramadan passé, eh bien un jeune homme qui souffre de diabète et à qui on venait de détecter un cancer du foie, Mskin. Et donc, t'imagines le traitement draconien. Il a un traitement lourd, donc il doit s'hydrater et pour son diabète et pour prendre son traitement pour son cancer du foie, etc. Donc tout ça, ça fait beaucoup et il doit s'alimenter dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière une bâtisse en plus, hein. Le respect pour te dire. Derrière une bâtisse, il se cache et puis il prend ses médicaments, il mange un petit quelque chose, il prend ses médicaments pour pouvoir, et de l'eau pour pouvoir s'hydrater et en même temps, eh bien, ils lui sont tombés dessus, ils l'ont massacré. ils l'ont massacré.
Mais c'est ça, en fait.
Alors, tu vois, mais il n'y a nul. Alors, tu sais, ces gens-là, moi, quand ils me disent, mais il n'y a nulle contrainte en religion. Alors, moi, je leur dis, ah oui, il y a nulle contrainte. C'est-à-dire juste, on te tabasse, on te lapide, on te, voilà, c'est tout.
Alors, on se retrouve aussi en prison, hein, mais je connais aussi trois petits jeunes qui travaillaient sur un chantier, en plein mois.
Enfin, oui, en Kabylie, il y a deux ans.
En Kabylie,
il y a deux ans, je me souviens.
Il y a deux ans, ils se sont retrouvés.
J'en ai parlé à l'antenne.
En prison, et avec une amende de, je crois, 100 000 dinars chacun.
Oui, ils sont venus les ramasser. Ils sont venus les ramasser.
Mais alors, j'ai envie de dire, le ramadan, c'est le troisième pilier de l'islam. Bah, du coup, la prière, c'est le deuxième pilier. Donc, prenez un camion, tout le monde que vous trouvez dans la rue,
tu sais ce que ça m'a fait,
la prière, vous les ramassez.
Tu sais, ça m'a rappelé quoi? Alors, tu vas rire. Hein. Alors, donc, oui. Comment? Ça m'a rappelé le film de Louis de Funès. Ils en sont là, hein, c'est du gag.
Ah,
hein.
Oui.
C'est du gag. Hein. Louis de Funès, à l'époque, c'était le gendarme de Saint-Tropez. C'est-à-dire les gendarmes, ils se cachaient derrière des talus, tout ça, pour guetter les nudistes.
Oui.
Les nudistes à la plage. Eh ben, on en est là. Eh ben, voilà. Nous, dans nos pays d'origine, ils se cachent pour guetter les non-jeuneurs. Et puis, dès qu'il y a un non-jeuneur, eh bien, celui-là, il lui tombe dessus, le tabasse, et il l'embarque dans leur camion et ils le mettent en prison. Voilà où on en est. Mais, à part ça, chers amis, il n'y a nulle contrainte en religion. Attention. Quelle hypocrisie, mon Dieu.
C'est de la pure violence, et vraiment de la violence au sens large, hein, parce que on ne peut pas prétendre être tolérant alors que on observe ce genre de, j'ai envie de dire, de phénomène, parce que pour moi c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années, alors que avant la décennie noire, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et
C'est vrai, avant, ouais, non. Avant, il y avait cette liberté. Regarde, en Algérie, avant, il y avait de tout. Enfin, les mosquées avaient surtout des personnes âgées. Bon. Maintenant, chacun fait comme il veut. Maintenant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, on lui achète un tapis. Enfin, bref. Alors, donc, et t'as même des gamins qui vont à la Mecque. Mais non, enfin, bref, chacun fait comme il veut, mais bon, je trouve ça un peu. Et alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, avant la décennie noire, moi qui ai connu l'Algérie durant mes vacances, eh bien, je me souviens, à Alger, il y avait des bars pour celui qui voulait entrer. Il y avait des gens qui voulaient boire une bière ou je sais pas quoi. Ben ça, les regarde, bon sang.
Oui.
Donc il y avait des bars et c'était avenant pour les étrangers, pour les touristes. Hein, c'était alors donc et même pour les autochtones, pourquoi pas? Tout le monde n'est pas, aligné à la même enseigne. Donc il y avait des bars. De l'autre côté, il y avait mosquée. Ça gênait personne. Chacun était libre de vivre sa vie et de faire ce qu'il veut. Et ça ne dérangeait pas. Il n'y avait pas de problème. Tu vois, les gens ne se regardaient pas en chien de faïence ou de travail. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. Et j'ai parlé avec des gens qui te disent on met ça dans du papier de journal, on cache et tout quand ils veulent boire un verre et tout, ils sont obligés de se cacher. Je dis mais attendez quand même, enfin oui, aux yeux des gens, aux yeux, tu comprends et tout, enfin ça va très 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 loin, parce qu'on est rentré dans la liberté des gens, parce que les gens aujourd'hui ils ont c'est Dieu, hein, c'est Dieu, il est plus dans le ciel, il est sur terre, tout le monde est Dieu. C'est des ventriloques. Hein. Tout le monde, a pris la parole de Dieu. Tout le monde va juger tout le monde. Dans certains quartiers ici, les jeunes qui ne mangent pas se font tabasser, se font insulter. J'ai une auditrice l'année dernière qui m'appelle durant le mois de Ramadan, Sahrat Ramadan. Elle m'appelle et elle me dit, Vanessa, faut que j'éclate, faut que je parle de ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. Au sein de l'école de mon fils. J'ai dit oui, vas-y, raconte. Elle dit son fils, jeune, tu vois, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Et donc, il mangeait à la cantine. Eh bien, il s'est fait tabasser par ses camarades qui l'ont traité de mécréant, de cofard, je sais pas quoi et tout. Ils l'ont tabassé. Tu manges ramadan, t'as pas honte et tout, etc. Ils l'ont frappé. Elle m'a dit, tu te rends compte? On est arrivé, quoi. Son fils était en larmes. Alors, non, mais regarde, même les enfants qui naissent ici, tout jeunes, le problème, il est là. Alors, donc, d'un côté, on dit, il n'y a nulle contrainte en religion. Mais d'un autre côté, les gens éduquent leurs enfants dans la contrainte de la religion. Problème, il est là. Donc après, plus tard, voilà ce que ça donne, quoi. Il n'y a pas cette liberté. Moi, j'en vis. Enfin, j'envie. Pas moi personnellement, parce que moi, chez moi, alors là, moi, chez moi, c'est la fiesta. Hein, chacun fait comme il veut. Mais et d'ailleurs, tout autour de moi, ma mère, tout le monde. Il y a pas aucun jugement. Alors, tu peux tout faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines familles, eh bien, j'ai envie de dire une chose vraiment, c'est que c'est en permanence les jugements, les jugements, les jugements. Alors, on va dire kafir, kofar. Yehudi, Gaouri, tu vois ce que je veux dire? Alors, oui. À force de tenir ce genre de discours, c'est-à-dire en faisant des différences, des distinctions, en mettant les groupes chacun dans une case, ben les enfants, ils grandissent avec ça, avec la différence. Alors donc, voilà, c'est pour ça que toi, quand tu es arrivé ici en France, la première question qu'on t'a posée, c'est des gens de ta communauté qui t'ont posé la question. Oui. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu es musulmane? Est-ce que tu pratiques? Tu te rends compte?
C'était choquant pour moi. Alors, je veux dire, au début, je m'attendais pas à ce genre de questions, à être confrontée à ce genre de questions, ben oui. Surtout dans un pays qui n'est pas musulman. Je n'ai pas envie d'être mise dans une case ou catégorisée. Et je n'ai pas envie. En fait, j'ai envie qu'on me considère tel que je suis pour ce que je suis et ce que je fais. Pas pour ma religion, je veux dire, si j'en ai une en plus, je suis pas obligée d'en avoir.
Voilà. On n'a même pas besoin de savoir laquelle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. T'as tout compris, toi. Nassima. Oui, vas-y, continue ta phrase.
Non, mais c'était tout ce que je voulais dire.
Non, parce que je veux pas que tu partes. Je vais te laisser, comme je t'ai promis hier. Alors aujourd'hui, tu vas être ma chroniqueuse, d'accord? Donc, Nicolas, on va la laisser, voilà. Alors, tu vas être en attente. Tu vas écouter l'émission à travers ton téléphone. D'accord. Et puis si j'ai au besoin, quand j'aurai besoin de toi pour un débat, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir peut-être s'exprimer. Et à ce moment-là, eh bien, je te laisserai débattre avec la personne. Tu veux bien?
Je veux bien, il n'y a pas de souci.
Eh bien, formidable. Voilà, bel état d'esprit. Merci Nassima, tout de suite. 01 53 40. Merci, à tout à l'heure. 01 53 48 3000. On marque une courte pause, mais avant de marquer la courte pause, Nicolas. Alors très très important, eh bien, cousin que j'embrasse très très fort, qui est à l'écoute, et il s'appelle Aïssa. Voilà, donc Aïssa, je t'embrasse très très fort. J'embrasse Souria, Saléha, ta belle-mère qui est juste adorable, et je l'adore. Voilà, et tes enfants. Voilà, tes adorables enfants. Voilà, Aïssa. Allez, gros bisous à toi et à la petite famille. Et tout de suite, on va passer à une petite pause et on revient juste après pour notre grand débat de ce soir, la tolérance, mon Dieu. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Eh bien, on va prendre Khalid. Il y a Nadia aussi du Blanc-Ménil et les autres ne partaient pas. Khalid, qui nous appelle de la région parisienne, donc tu es un peu partout autour de la région parisienne. Ah, bonsoir. Khalid, Khalid qui doit tourner autour de Paris, quoi.
Oh, je tourne comme la lumière, je tourne.
C'est quoi, Khalid, tu es VTC, toi?
Ah, c'est Khalil.
Ah, Khalil. Khalil
Gibran.
Attends, vas-y, dis-moi,
Khalil Gibran. Tu sais.
Ah oui, oh ben, non, je. Écoute, ouais, non, on va laisser se reposer. J'espère que tu vas vivre encore longtemps, toi.
T'es gentil, Vanessa. Et toi, ça va?
Ben écoute, ça va, tout va bien, je te remercie.
Oh, je suis content. Écoute, je trouve magnifique votre débat aujourd'hui. Voilà.
Ben, je pense qu'il est assez intéressant pour. Parce qu'on est trop dans un. Comment dire? Quand on aborde ce thème-là, hein, ouais. Eh bien, on est dans. Moi, je me laisse aller, je laisse dire parce que je ne veux heurter personne par mon propos à moi et mes idées. Mais d'un autre côté, eh bien, je trouve que on est trop dans une espèce d'ambiance bisounours. Tu vois ce que je veux dire? Et que on se met un voile sur les yeux et que on se ment à soi-même quand on dit il n'y a nulle contrainte en religion et que d'un autre côté, une personne qui dit ben je ne crois pas, enfin je crois que je suis dans le doute et j'ai plus envie de pratiquer, je ne crois plus, voilà, je suis plus satisfaite, manichem kana, tu vois. Alors donc cette personne elle réfléchit autrement et on lui tombe dessus. Alors ici on l'insulte tout ce que tu veux, kafara et nanana, mais dans nos pays d'origine, elle fait de la prison parce que ça s'appelle de l'apostasie et dans les pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie Saoudite, eh bien là-bas c'est la peine de mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À part ça, il n'y a nulle contrainte en religion.
Ouais. Moi, je laisse vaguement rire à ce moment. Que, franchement, si je parle avec toi de religion, Vanessa,
Et c'est pas de la religion qu'on parle là, c'est pas de la religion. On parle des gens qui justement t'imposent leur.
L'être humain.
Ouais, voilà.
Globalement, je parle globalement.
Absolument, très bien.
C'est-à-dire que globalement, sur Terre, bon, c'est vrai que l'être humain, il a besoin de mettre sa foi en évidence constamment. Et c'est vrai que ça le divise aussi d'une autre partie de l'humanité, quoi. C'est ça qui est dommage. Allô ?
Oui, je t'écoute. De mettre en évidence aujourd'hui, hein, parce que, elle, comme le disait l'auditrice, et elle a raison, Nassima, je la rejoins, avant la décennie noire en Algérie, avant les années 90, eh bien, pour prendre, pour exemple, l'Algérie, et même ici en France, parce que c'est l'effet papillon.
C'est l'effet papillon. Oui. C'était magnifique.
C'est ouais. Ce qu'on appelle, tu sais, l'effet papillon, hein, c'est la, de, ouais. Alors, donc, ce qui fait que ce qui se passe quelque part dans le monde, eh bien, ça se répercute ailleurs. Eh bien, en Algérie, ouais. Avant la décennie noire, comme tu disais, tu le dis, c'était magnifique, oui, parce qu'il y avait une forme de liberté et qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui eh bien tout le monde pointe du doigt. Moi je connais des filles là-bas vraiment hein, ouais. Des filles qui portent le voile. J'ai rien contre le voile hein, chacun fait comme il veut. Alors vraiment moi tu peux te balader ouais. En short, tu peux te balader avec tout ce que tu veux. Alors là vraiment je ne juge pas. Mais c'est juste pour dire, pour donner une image. Eh bien en Algérie je rencontre beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, etc., qui étudient et tout, qui n'étaient pas du tout, qui ne sont pas dans la pratique vraiment, hein, et qui mettent le voile. Et dans la discussion, elles te disent, hein, mais beaucoup, hein, c'est pas une, c'est pas deux, hein, elles te disent, je le mets parce que c'est pour ne pas dénoter des autres, parce que galpso, elles te disent, tout le monde le met. Et moi, tu vois, j'ai l'impression, voilà, on me montre du doigt, j'ai l'impression d'être différente. Alors, elle me dit, tu sais, ici, on est obligé de faire tous pareil parce que sinon, ben, on est malmené, on est pointé du doigt, on est stigmatisé, c'est pas possible. Elles le mettent dans ce but-là, mais elles ne le mettent pas pour autre chose, quoi. Voilà.
Ouais, malheureusement.
Tu vois, par exemple, ouais. Hein, un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et moi, comme t'en as plein qui vont. Oui.
Tiens, je vais te donner quelques aperçus. Je me souviens qu'en Algérie, dans les années 80, début 80, j'étais encore très jeune, même. Bon, bref. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, donc c'était le Coran du matin au soir. Donc tout ça, c'était un flux politique, si tu veux, pour arabiser un maximum de gens. Et puis c'était comme ça, c'était la politique de l'époque. Et puis c'était bien dommage parce que les gens, eux, à cette époque-là, ils étaient beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui, tu vois.
Mais complètement.
Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, pas. Voilà. Donc ensuite, les années 80, moi, je descendais sur Alger, où je venais de l'Est ou de l'Ouest. Mais quand j'allais sur Alger ou une grande ville comme Constantine ou Oran, bah écoute, c'était magnifique. On avait l'impression qu'il n'y avait aucune différence entre vivre en Europe et là-bas, par exemple. Il n'y avait pas ce mal-être, ce sentiment d'être observé, d'être jugé, d'être pointé du doigt. Il y avait des concerts, il y avait des salons de thé comme toujours, il y avait tout un tas de choses qui permettaient à la société de vivre ensemble dans un système harmonieux. Aujourd'hui, quand l'obscurantisme, quand les gens, ils sont, je sais pas pourquoi ils se sont refermés sur eux-mêmes, comme ça, et c'est marrant parce que ça fait effet de génération, mais il y a quand même cette génération qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui ouvre la porte à nouveau à la lumière, on va dire, tu vois, c'est-à-dire à dire non mais attendez, c'est bon, vous êtes nos parents, nos grands-parents, vous respectez, on aime la religion comme vous tous, mais nous on a notre point de vue, vous avez le vôtre, et laissez-nous vivre tranquille, voilà, on va.
Ah, tu les vois toi ceux-là, moi je vois d'autres, hein. Moi je vois ceux qui jugent leurs parents de ne pas être suffisamment croyants et qui disent à leurs parents, pratiquants, pardon. Moi je vois surtout une grande majorité de jeunes aujourd'hui qui jugent leurs parents, et ça a commencé déjà les années 90. Alors aujourd'hui c'est une cata. Ouais. Les années 90, quand on mettait les télévisions à la poubelle, quand ils disaient c'est la fenêtre du diable, ou je sais pas comment ils appelaient ça. Ils interdisaient à leurs parents aimaient bien les mousselsel, je crois on appelait ça en Algérie. Tu sais les feuilletons d'amour qui venaient d'Égypte, ouais. Tout ça, et d'Inde. Eh bien voilà, de Turquie.
À obscurcir l'esprit des gens.
Mais donc, oui, mais voilà, les gens, ils te disent non. Voilà. Les jeunes aujourd'hui, Khalil, les jeunes aujourd'hui, ils disent à leurs parents, non, tu ne connais rien, parce que tu n'as pas lu, tu ne connais rien, tu n'es. Ils se permettent de juger leurs parents, disant qu'ils sont que leurs parents sont de mauvais pratiquants. C'est l'effet inverse
c'est
aujourd'hui.
C'est très grave d'être un enfant qui a été élevé par ses parents et d'ensuite juger son propre père ou sa propre mère.
Ah bah
et de lui dire, c'est à toi maintenant de te comporter comme je veux. Non, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Normalement, c'est l'ouverture, c'est l'esprit ouvert à tous. Le ramadan, chacun fait ce qu'il veut, ça le regarde.
Bah oui.
C'est vrai que dès que ça devient un pouvoir qui est lié à un pouvoir, mmh. là, ça devient autre chose. Parce que quand c'est le pouvoir qui met en place des lois aussi dans la société pour justement montrer aux gens que c'est pas bien de pas faire le ramadan, bah aussi, je trouve que je sais pas où aller cette loi. Je l'ai pas trouvée dans la constitution en général au Maghreb. Mais
ah bah c'est la charia, ça. Ah, c'est la charia, mais elle...
Ce n'est pas une loi.
Ah, si, tu cherches, tu trouves. Ah oui, tu trouves.
C'est super grave.
Ah, bah oui. Ah oui, parce que, apostasie.
Un policier qui ne fait pas le ramadan ou un gendarme qui ne fait pas le ramadan, je ne vais pas aller lui dire, monsieur, viens, je t'embarque en prison. Ou je vais te mettre une amende. Bah, tu me laisses faire ce que je veux, je suis dans une société libre, libre de droit, je respecte les droits, mais ça, j'ai pas voté, j'ai pas eu connaissance de cette loi, et le peuple aussi devrait se réveiller, parce que si des lois comme ça passent petit à petit, on va se retrouver, on va tous marcher avec, un cosmonaute, quoi, c'est ça, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, si vous voulez, une liberté.
Il n'y a pas le droit à la différence, voilà, c'est ça.
Voilà. Chacun, on est des individus, des individuels, on est déjà en dualité entre nous, avec nous-mêmes, et en plus de ça, si on se retrouve en conflit, c'est-à-dire en dualité avec la société, bah forcément qu'il va y avoir un problème qui va se généraliser dans un mal-être indéterminé. C'est ça. C'est-à-dire que voilà. Je voulais te dire une chose très importante,
oui,
si tu me permets.
Oui, bien sûr.
Parce que je m'emporte un petit peu vite fait. Je suis content de te parler, c'est pour ça. Alors, en fait, il faut bien que les gens, sur cette terre, ils fassent la différence entre la religion, la foi et l'individu. C'est-à-dire ces trois choses complètement distinctes. La philosophie, la religion, elle se base sur une science philosophique. On est d'accord ou je sais
tout
pas?
Tout à fait. Oui, voilà. Oui, vas-y.
Quand toi tu dis, par exemple, il faut Iqra. Tu sais, au pays là-bas, ou au Maghreb, ou en Orient, quand ils leur disent ce terme, ça veut dire juste lire le Coran. C'est tout.
Oui, on me l'a sorti, celle-là.
Ouais, ouais.
Mais apprenez de
toi. Ils comprennent ça.
Attends. Tu sais, on me l'a sorti.
On
m'a dit, mais si, il y a des gens, quand tu leur dis, écoute, je sais pas, Iqra, vas-y, il y a des bouquins, ouvre les bouquins, tu verras, tu vas apprendre des choses. Alors, il y a certains qui te répondent, qui te disent, mais Iqra, j'ai lu le meilleur des livres, je lis le Coran. Mais non. Tu lis tout non?
Eh ben moi j'ai des amis, même aujourd'hui, je te dis j'ai un certain âge. Quand je leur dis qu'est-ce que tu as lu dans ta vie, moi j'aime bien parler littérature. Que ça soit d'ailleurs, je suis émerveillé à chaque fois que je vous écoute parler de Platon, de l'époque de l'Antiquité, tout ça, ça me fait beaucoup plaisir. Et j'écoute et en même temps je me dis tiens c'est marrant, on partage quelques petites valeurs comme ça, ça me fait plaisir.
C'est génial.
Mais si tu veux. La personne à qui il dit qu'est-ce que tu as lu, qui me dit bah moi j'ai lu le Coran, mais je lui dis mais attends mais t'es jamais sorti du Coran à lire autre chose. Ah non c'est pas bien parce que tout ce qu'il y a dans autre chose c'est le mal absolu.
Voilà.
Non.
Voilà.
Et là je suis je suis outré, je suis déçu parce que c'est pas ce que j'ai connu, c'est pas ce que j'ai espéré pour mon pays à l'origine, le pays d'origine de mes ancêtres, de mes parents.
Là,
donc je me dis moi dans mon pays on mérite aussi une liberté, on mérite d'être libre dans une société, il y a aucun mal à ça. Maintenant si le pouvoir se sert de la religion, là, franchement, ça devient super critique et grave, quoi. En fait, en d'autres termes.
Ah, ben, de toute façon, les pouvoirs, tu sais, dans ces pays-là, la religion, c'est l'opium du peuple, comme on dit, hein, c'est ça. Alors, donc, ce qui fait que quelque part, eh bien, ça les arrange bien quelque part. Parce que les années 90 en Algérie ne sont pas arrivées comme ça. C'est pas tombé du ciel, hein, les années 90, hein, en Algérie. Ouais. Quand on a eu, par exemple, Chedli, Benjedid.
Ouais.
Eh bien, soi-disant, ça parlait d'ouverture, d'ouvrir, etc., les partis. Mais il n'y avait pas d'ouverture des partis. Parce que, en fait, c'était le serpent qui se mord la queue. Parce que gens, quand il a fait son discours en disant oui, je vais laisser les partis s'exprimer, tous les partis politiques de tous bords pourront avoir raison d'être, etc., et d'exister. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a ouvert la voie à qui? Aux extrémistes religieux, aux islamistes. Puisqu'il y a eu le fils qui est arrivé.
Ça les arrangeait.
Voilà.
J'ai pas peur de parler, tu vois.
Non, mais c'est vrai. C'est pas faux.
J'ai pas peur de parler parce que je suis dans mon droit, je suis libre sur terre, j'appartiens à tout le monde.
Bien sûr, il faut dire les choses.
Donner mon avis. On est d'accord.
Vas-y, réalité.
Bon. Alors mon avis, moi, c'est quand le gouvernement ou quelconque, quel que soit le pays, hein, je pointe pas du doigt une région particulière du monde. C'est-à-dire quand un pouvoir se sert de la religion, c'est vraiment c'est comme tu disais si bien, vois-tu, quand tu veux tuer ton chien, tu lui inventes la rage.
Ben ouais.
Tu vois? Et ben la rage, dans ce cas présent, c'est la religion pour certains gouvernements qui s'en servent. Comme rage. Alors donc après, le peuple, lui, c'est le chien en question. Enfin, façon de parler, hein, bien sûr, c'est une image.
Oui.
Mais donc, si on veut minimiser ce peuple qui n'avance pas, qui reste comme il est, que nous, bon, bref, ils s'en foutent plein les poches et tout le tintouin et ils font ce qu'ils veulent sans consulter le peuple, bah, à ce moment-là, je suis désolé de dire que c'est une escroquerie à l'échelle nationale, quoi. Enfin, et psychologique, bien sûr.
Voilà, oui, et justement, pourquoi ils ont mis en place... ils ont laissé faire ou mis en place ou j'en sais rien, mais enfin bon, il y a plusieurs avis là-dessus. Eh bien, concernant justement les années 90, le fils, etc. Seul coup, on n'a rien compris de ce qu'il se passait du jour au lendemain. Hein. On a vu des Afghans arriver, défiler dans Alger. Ouais. On les appelait comme ça. Je me souviens très bien. Hein. Eh bien,
Vanessa.
Oui.
Pardon. Ça, je mettrai pas, même pas un cheveu sur le feu pour dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que en fait, moi, j'ai eu écho d'une autre histoire qui s'est passée en Algérie, donc à l'époque, donc surtout pendant la décennie noire, etc. Donc en fait, quand les pouvoirs sont complices les uns entre les autres, le peuple il y comprend rien. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est de constater qu'aujourd'hui, on parle de religion comme si c'était un problème. Non, le problème, la religion, c'est une philosophie.
Ça se vit dans l'intime.
Ça se vit comme il veut.
Non, mais quand elle arrive...
Moi, je vais manger ou boire un café.
On te juge.
Si j'étais boxeur, moi, quand je vais au bled, c'est le ramadan. Bah, il y a des jours, je le fais parce que je le fais. Et il y a des jours, je le fais pas parce que je peux pas le faire ou parce que j'ai pas envie de le faire ou parce que je dois voyager ou pour X raisons. Si tu veux.
Ben oui.
Mais quand je le fais pas, comme les gens ils savent que bon voilà, je m'appelle comme ça et que je suis un boxeur en général, que les gens ils m'approchent pas. Mais crois-moi, c'est bizarre, les gens ils t'approchent pas. Hein. Je fume une cigarette, je les respecte. Ça m'arrive de fumer une cigarette ou de boire un verre d'eau et je m'en fiche complètement. Mais depuis quelques années, Vanessa, tu peux plus le faire ça.
Ben non.
C'est les gens presque qui te sautent à la gorge, quoi. Ouais, je dis, mais t'es bizarre, toi, tu as changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Non, c'est pas bien, là. Mais attends, s'il te plaît, ça te regarde pas. Et plusieurs fois, comme il y a eu altercation, maintenant, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire, je fais l'hypocrite, en gros, quoi.
Mais voilà. Tout le monde fait ça. 80% des gens font ça là-bas.
L'hypocrisie, mais allez, alors, je leur dis clairement, ils sont presque à deux doigts de me rentrer dedans.
Et voilà. Alors, quand je te disais tout à l'heure, ces années 90 où justement, ils ont mis en place, la religion en avant, enfin entre guillemets, hein, parce que c'est pas la religion, c'est pour moi, enfin c'est de la spiritualité, c'est pas de cette violence qu'on nous a proposée. Eh bien, voilà. Alors donc, c'était une réponse, parce que quand je te disais tout à l'heure, c'est une métaphore quand on dit la religion, l'opium du peuple. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. Pourquoi? Parce que ils ont servi la religion aux gens à outrance comme ça. Allez, prenez. Pourquoi? Eh bien, c'est pour justement pour museler le peuple, puisque c'est une réponse à une attente du peuple. Et en même temps, oui. Si tu veux, c'est un remède. C'est un remède à leur mot MAUX. Une promesse d'un monde meilleur. Donc les gens, ils sont occupés à attendre un monde meilleur. Mais les gens sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau.
Ils sont tombés par millions. Attention, c'est parmi même un milliard et quelques.
Mais dans le délire, jusqu'à voir des nuages et le nom de Dieu. Écrit dans les nuages et les gens qui tombaient en transe. Je me suis dit, mais c'est quoi ce peuple? Mais oui, c'est quoi? Je me suis dit, mais ils sont en train de nous abêtisser, ça y est. De nous abêtiser, on les abêtiser. J'ai dit, ce peuple va on va vraiment faire de nous, enfin des. Mais c'était terrible d'entendre ça.
Ne faites pas ça de nous, pitié, moi qui aime le théâtre et la joie de vivre, ne me faites pas ça.
Ah ben voilà, Khalil, je t'embrasse. Bonne soirée.
Je peux rajouter juste.
Vas-y, rapido.
Je voulais dire, c'est très important. Il faut faire la part des choses entre, par exemple, juste comprendre qu'une philosophie. Ça n'est pas forcément une vérité.
Mais non.
C'est ça qu'il faut bien dissocier de ce monde. Parce que les gens, ils sont rentrés dedans d'une manière... Moi, ça me fait halluciner de plus en plus. Et j'aurais jamais cru un jour t'appeler à la radio pour parler de ça.
De ça. Bah si, c'est bien, c'est un sujet qu'il faut évoquer parce que plus on avance et plus j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans la grotte.
En tout cas, vive la jeunesse. On met tout notre espoir sur eux, nous, les générations un petit peu juste, les grands-pères, les frangins.
Bah oui, il faut éduquer.
Je les embrasse tous ces courageuses personnes qui disent vive la liberté, vive la liberté, la mixité et la joie de vivre tous ensemble sur Terre, voilà.
Et la diversité. Merci, bisous, à bientôt, bisous. Au revoir. 01 53 48 3000, on a une petite pause là tout de suite. Allez, on marque une courte pause et on revient avec vos appels, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
01 53 48 3000, nous sommes toujours sur Beurre FM et c'est Confidence jusqu'à minuit. Et un sujet très intéressant, ma foi, et bien d'actualité, et sur lequel on devrait se poser enfin, un peu plus longtemps, hein, et se poser les bonnes questions et réfléchir surtout. Alors, on a Noël qui nous appelle de Paris. Bonsoir Noël. Bonsoir Noël. Allô ? Kézako ? Noël, bah oui, parce qu'on est presque Pâques, hein, en même temps. Hein. Allô, Noël. Bon, bah écoute, je sais pas, il voulait absolument intervenir. On va prendre un autre appel en attendant. Hein, et tu gères Nicolas, hein, je te laisse gérer, d'accord ? Eh bien, on a Hassina qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir, Hassina. Hassina ?
Allô, oui ?
Oui, bonsoir, bienvenue, oui. Hassina.
Bonsoir Vanessa, comment tu vas ?
Ah ben écoute, je vais bien, je te remercie.
Merci. Donc comme tu disais, le sujet est très intéressant. Je me disais que heureusement que tu es là pour soulever c'est un problème, des sujets très épineux. Mm-hmm. Et puis je pense que tu dis ce que beaucoup de Oui, tu dis ce que beaucoup de gens pensent. En tous les cas, moi, je fais partie de ces gens qui pensent ce que tu dis. Mais après, ils n'osent pas le dire. C'est sûr que il vaut mieux se fondre dans la foule et dire voilà, laisser passer plutôt que de se mettre à contresens parce que on vous tombe dessus, comme disait le jeune boxeur là.
Oui.
Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que en tous les cas, moi, il y a une chose qui est certaine et sûre et certaine, c'est que ils savent, tout le monde, ou plutôt la plupart des gens savent, les jeunes, ils savent que c'est de l'hypocrisie. C'est plein d'hypocrisie parce que si la religion était là pour gérer tout, pour embellir le monde, pour adoucir cette vie, je sais pas, moi, les musulmans seraient les plus heureux. Mais le constat est là. Moi, je disais, mais montrez-moi un pays musulman où les gens vivent heureux. Je sais pas, je voudrais bien aller le voir. Il n'existe pas. Donc, on tourne en rond. Voilà, les gens se voient la face. Et voilà, ils ont des phrases toutes faites, je sais pas moi. Par exemple, le ramadan. Prenons le ramadan, comme tu disais, il n'y a pas de contrainte. Mais n'empêche que jeûner, c'est une contrainte. Moi, personnellement, depuis toute petite, jeûner me rendait malade. Mm-hmm. Et mon père me disait de manger parce qu'il voyait que je tombais dans les pommes, je vomissais, j'étais pas bien. Donc je l'ai fait très tard, quoi. J'ai fait très tard. Où tout le monde, et le comble, c'est que on dit généralement aux filles, c'est pas à partir quand elles ont leurs règles, c'est là où elles sont matures entre guillemets et que c'est là où elles doivent commencer à jeûner. Et pendant la semaine où on a les règles, on nous dit de manger, mais n'empêche que tu peux pas manger non plus. Il faut que tu te caches, il faut pas que les gens te voient manger alors que logiquement tu as tes règles, tu manges. Ben non. Un des exemples, quoi. Donc, tu jeûnes, t'es obligé de le faire. Après, la semaine où tu sais permis, tu peux manger, tu peux pas manger parce que tu dis que t'as honte, c'est de dire, voilà, j'ai mes règles, je mange. Donc, c'est ça. Donc, et dans tout.
Le souci, il est aussi dans le fait que on te laisse pas le choix. Le libre choix de jeûner ou oui. ne pas jeûner. Alors, les gens vont te dire, je suis sûre que 90% qui sont à l'écoute vont dire, ben non, on s'en fiche, nous, les gens ne mangent pas, etc. Mais non, non, vous vous en fichez pas, en vérité. Posez-vous bien la question.
Oui.
Vous vous en fichez ouvertement, quand vous le dites ouvertement, comme ça. Mais au plus profond de vous-même, quand vous rencontrez une personne que vous connaissez, par exemple, qui est de la même confession, et que cette personne, vous la surprenez en train de manger ou de boire de l'eau ou un jus de fruits ou n'importe, peu importe, eh bien vous êtes choqué. Vous êtes choqué et vous allez le colporter en disant tu te rends compte, etc. Mais appelons un chat un chat. On vit dans le jugement permanent. C'est que nous sommes à notre moyen âge parce que les chrétiens qui ont bien avancé, hein, pour prendre le cas des chrétiens qui ont bien avancé, eh bien il n'y a pas de jugement. Celui qui ne va pas à l'église, personne ne va, va le juger. Je veux dire, on n'est pas obligé de se marier à l'église si on n'en a pas envie. On va à la mairie, point barre. Donc, les familles trouvent ça normal.
On en est encore loin.
Oui, les baptêmes, de moins en moins. Ben, les gens sont pas... C'est-à-dire, les pratiquants chrétiens trouvent normal que certains... ça ne les choque pas plus que ça. Mais nous, on est dans le jugement. Mais
oui,
permanent, Klarm Dan, Kefer, Zoujet Magauri, elle n'était pas vierge, elle n'était pas, mais plein de préjugés. Alors, tout ça, elle est où la spiritualité? Ben, moi, je la vois pas.
Je salue quand même les parce que j'ai toujours espoir et je préfère regarder comme on dit le verre plein à moitié plein que moitié vide.
Mais il est pas plein le verre, il est loin de se remplir, hein, crois-moi. Hein. Il est en train de se vider, voir qu'elle a à faire, regarde.
Moi j'ai l'impression qu'il est percé. Non, il est percé parce que nous en verre c'est cool.
Même le verre que ça, Khlas, allez.
Non mais quand tu vois le Hirak par exemple, tu vois ces gens que malgré tout, ils continuent à sortir, à clamer, à réclamer leurs droits et tout. Je me dis, il y a quand même il y a de l'espoir parce que
ils réclament leurs droits, ok, très bien, c'est bien. Tous les peuples ont réclamé leurs droits. Il y en a qui sont morts pour leurs droits. En France, les révolutions, il y a eu des morts et des morts. Partout, hein. Il n'y a pas que là-bas.
Oui.
Mais par contre, le Hirak, là où moi je me suis arrêtée à un moment donné, parce que, c'était, il n'y a aucun slogan, il n'y a pas une petite virgule, une petite phrase, enfin, phrase, c'est beaucoup dire, concernant, par exemple, ce code de la famille.
Ce code de la famille.
Les femmes.
Il y a un petit carré de femmes féministes qui se sont manifestées.
Oui, mais...
Et tout le monde. Moi, j'ai même eu une petite discussion avec mon neveu. Qu'est-ce qu'il me sent? Ah, c'est pas le moment. Et j'ai dit,
c'est ce qu'ils ont dit pendant la semaine.
Oui.
Durant la guerre d'Algérie. Pour l'indépendance, les femmes sakines, elles ont participé. Il y a des femmes, elles ont été violées, elles ont été massacrées, elles ont été brûlées, elles ont été condamnées à mort, tout. Et qu'est-ce qui s'est, mais qu'est-ce qui s'est passé, ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Quand elles ont dit, écoute-moi bien, elles ont dit, j'espère l'indépendance, maintenant ça ou n'est-ce? Tu sais ce qu'on leur a dit? Non, avant l'indépendance, on leur a dit la même chose. C'est pas le moment. Attendez, après l'indépendance, vous inquiétez pas, bien sûr. Alors, donc, c'est jamais le moment. Alors, je suis désolée, je n'ai pas vu. Alors, les femmes, mais elles ont encore mineures, un tuteur pour le mariage, quand elles doivent, et l'héritage, et tout ce qui va avec. Donc, ce code de l'infamie, qui a été érigé par les hommes, hein. Quand ils sortent dans la rue.
Les hommes, mais n'empêche, je dis, vous avez beau brimer les femmes, vous avez beau, ôter le...
Mais elle l'accepte! Elle l'accepte, Hassina! J'ai pas vu, moi j'ai été à République, j'étais là une chauffe-flic, les vidéos, elles, j'ai partout. Les femmes, elles sortent, non mais attends, mais en aucun moment, les femmes, et nos droits. Tu comprends ce que je veux dire? Et nos droits.
Je crois crois que non. Le droit des femmes, alors, c'est le dernier des derniers, quoi. C'est le dernier des derniers, je crois.
Ouais. Ouais, ouais. Même elles, mais ça, qu'elles ont abdiqué, je sais pas, j'ai rien compris. Je sais pas, qu'est-ce qu'on leur a mis dans l'alimentation? Pas total, peut-être.
Non, on leur a dit, écoutez, d'abord nos droits, nous, les hommes, après on verra après vous.
Ah oui.
Mais les femmes, je te dis, mais elles et sont écrasées.
Et la meilleure. Alors, quand tu parles avec eux, quand tu dis, tu sais, quand tu parles d'héritage, machin, etc. Oui. Alors, les hommes, ils te disent, mais c'est pour... Mais non, c'était fait pour protéger les femmes. Ah bon? Ah, toi, t'hérites deux fois de ta sœur pour la protéger. Et quand on parle du sujet de la virginité, par exemple, tiens, allez, je sors du contexte, là, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. Quand on parle de la virginité, eh ben, c'est les hommes qui prennent la parole. Ah, c'est les hommes, ils te disent, c'est notre fierté et tout. C'est les hommes, c'est le problème des hommes. C'est incroyable. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de ces lois, de ce code de l'infamie, de ces lois. Tant qu'elles ne seront pas réformées, eh bien, les femmes, elles subiront encore.
Tu me fais penser en parlant du code de la famille. Est-ce que tu sais que dans le code de la famille, ils disent que la belle-fille doit respect à ses beaux-parents?
Et j'ai dit, bien sûr.
Non, moi je dis, mais pourquoi ils rajoutent pas le gendre et doit respect à ses beaux-parents aussi?
Ah, mais tout.
Non,
tout.
Mais c'est
bien. Oui.
Mais franchement.
Quand une fille, elle hérite, quand il y a un héritage, les garçons, ils prennent le plus gros du pactole parce que c'est le double. Attends. Et les oncles? Ah oui, parce que Ken, les oncles, hein. Si c'est du côté du père, la môme, hein. Les hommes, ils prennent, quand les hommes se sont bien servis, les miettes qui restent, ils donnent aux femmes. Oui. Ça, c'est pas normal.
Et les plus beaux, dans un couple, par exemple, où il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles, la femme, quand le père est décédé, la femme et les filles n'hériteront que d'une partie.
Bah oui, c'est les oncles.
C'est les
oncles. Rouel ou la môme.
Alors que, j'ai dit, mais c'est inadmissible, ça, c'est jusqu'à quand?
Ils te disent, c'est pour protéger. Si c'était dans l'autre sens, j'aimerais bien dire, c'est pour protéger. Comment tu les protèges? Tu leur voles leurs droits juste parce qu'à cause d'un chromosome de je ne sais quoi, là, pour rester poli, il y a eu le Y au lieu du X. Eh bien, ni fille, voilà.
Nous, on a le Z, je crois, oui.
Alors, un hermaphrodite, comment on fait? Un hermaphrodite, comment on fait?
Il le tuerait.
D'ailleurs, non, ils le tuent pas, ils peuvent pas. Mais tu sais, hermaphrodite, un jour, je leur ai dit, parce que des fois, on fait des débats, hein. Et tu connais mon franc-parler. Donc, l'homosexualité, c'est haram. Alors, toutes les religions se sont mis d'accord, hein. Enfin, les hommes qui ont décidé que. Alors, donc, c'est haram et tout ça, dans certains pays, ils les tuent, ça qu'en est tout, pendant combien de décennies, même chez les chrétiens, hein. Ça a commencé un peu à s'arranger chez les chrétiens. Mais c'est pareil, hein, ils tuaient les homosexuels, ou alors il est vraiment malmené et tout, ils allaient en prison. Il n'y a pas longtemps, hein, en Europe, en France tout du moins. Mais, tout ça, c'est les religions, tu vois, parce que tout ça vient de là. Donc, mais c'est les hommes à l'époque, à mon avis, qui ont mis leur petit grain de sel, parce que c'est pas possible qu'un dieu d'amour, qui crée des êtres, il dit qu'il est miséricordieux, Rafa Rahim, mais il condamne quand même. Non, il y a un problème. Alors, donc, ces homosexuels, c'est à qui, moi, qui me font de la peine, parce que moi, je défendrai toujours l'indéfendable et les minorités. Toujours. Eh bien, ce qui se passe, eh bien, on parle de ça, il te dit non, parce que c'est dans le Coran. Alors, les chrétiens, ils te disent, ah oui, c'est dans la Bible. Et puis, t'as les juifs qui te disent, dans la Torah. Alors, toutes les trois, ils sont mis d'accord. Alors, là-dessus, ils sont d'accord, hein. Quand il s'agit de tomber sur une minorité, ils sont tous d'accord. Alors, attends. Alors, moi, je leur ai parlé à l'antenne, j'ai dit, oui, mais vous savez qu'il y a une troisième catégorie d'êtres humains? Les hermaphrodites. Et non, je dis, hermaphrodite, tu sais ce que c'est? Il fait, non. Parce que, les homos. Ah non, c'est haram et tout ça, c'est marqué. Les sourates, les machins. Il faut leur faire ça, interdit, tout ça. J'ai dit, ok. Et qu'est-ce que tu fais du troisième genre? Il me dit, j'ai dit, écoute, hermaphrodite, t'as ce que c'est? Il me répond à l'antenne, hein. Il m'a dit, non, je sais pas. Je dis, c'est un être humain que Dieu a créé. Il est né avec deux sexes. Il savait pas. Il est resté quoi, le gars? Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il me dit, il était perdu. Alors, je lui dis, tu sais, est-ce que tu l'as lu? Puisque tu me sors les sourates. Tu me dis, il est, mentionné. Ah ben, tu sais, c'est comme mentionné. Dans, c'est ce qu'il y a dans la Bible, il est dans pareil, hein, quand il, les condamnations. Alors je lui ai dit, oui, c'est interdit, c'est haram, c'est marqué, oui, qarahalé et tout. Je dis, haousle, alors, à la Emma, c'est blécho, il y a ça, ça, hermaphrodite dans Hadek. Qarahalé, le passage, c'est allé hermaphrodite. Qarahalé, mekenj. Ah, quand on pourtant, il a tout prévu, donc normalement c'est marqué. C'est pour ça que moi, les religions, j'ai mis, tu vois, entre la spiritualité et Dieu, que je crois en Dieu, Dieu, et les religions, j'ai mis ça de côté, parce que, pour moi, c'est les hommes. Il n'y a aucun texte qui te parle des hermaphrodites.
Quand est-ce que vous nous laissez tranquille avec la religion? Parce que moi, je me dis, la religion, c'est quelque chose, c'est la foi, déjà, et c'est vraiment dans le cœur, c'est privé, c'est entre toi et ton créateur. Si tu crois, si tu crois pas, tu crois pas. Chacun, il fait. Mais quand est-ce qu'il nous laisse
pas? Ah non, il te condamne, hein, si tu crois pas. Ça va pas, il te condamne. Ouh là là. Ils te mettent sur le pilori, hein.
Depuis,
ouais. Ah si, non, on va aller très vite, ma chérie.
Oui, bon, c'était pour ça, mais en tous les cas.
Merci, en tout cas.
Que ça va évoluer un peu, que les gens, ils finissent, comme tu dis, et surtout, ils jugent pas. Ils laissent les gens tranquilles et chacun, il vit comme il peut. Voilà.
C'est bien dit. Tolérance. Je t'embrasse très fort, Hassina. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était pas Noël, c'était Naufel. Il manquait le F. On l'a retrouvé. Naufel, bonsoir. Bonsoir, Naufel. Ah, il est énervant. Il te parle là-bas quand tu es au standard et là, il s'exprime pas. Naufel. Allô, Naufel. Bon, bah, écoute, hein. Tant pis pour lui. On va passer son tour, hein. Qu'est-ce que je te dise? Alors, Nassima, tu restes toujours, hein, en attente, hein, d'accord? Des fois qu'on est un débat, eh ben, tu vas mener le débat, d'accord? Alors, c'est Nadia qui nous appelle du Blanc-Ménil. Alors, Hassina, c'est fini, hein, la 4. Alors, Nadia du Blanc-Ménil, bonsoir.
Bonsoir, Mélanissa, comment vas-tu?
Bonsoir, ma chérie, bienvenue, Nadia.
Bonsoir Nico, toute l'équipe de Blanc-Ménil, de Beurre FM,
merci. Merci à toi, bienvenue.
Oui, ça va, alhamdoulilah.
Alors?
Des aléas de la vie, on va dire.
Ouais.
On a des jours avec, des jours sans, ça va, j'ai pas à me plaindre.
Alhamdoulilah.
Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui regarde les belles choses que Dieu nous donne, les belles choses de la vie. Voilà.
T'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà, toujours. C'est ma force, c'est ce qui fait avancer.
T'as raison. Alors, sinon, tu voudrais aborder un sujet?
Non, en fait, moi, je voulais juste faire une petite aparté par rapport au Ramadan.
Oui.
Bon, moi, je suis pas du tout politique, comme ça, c'est réglé. Et la religion, pour moi, c'est hyper personnel, vraiment hyper personnel, pour ma part.
Hein. C'est bien, non, mais t'as raison, c'est bien.
Après, par exemple, moi, je vais donner un exemple. Bon, je suis très croyante. Je communique avec Dieu vraiment vraiment très très fréquemment, tu vois, donc d'où le fait que c'est vraiment très personnel. Voilà, j'ai mes convictions, etc. Par exemple, que Dieu exauce mes prières, peu importe. Mes filles font le Ramadan depuis toujours parce que voilà, je les ai élevées comme ça, on a été élevées comme ça, mais moi ça fait plus d'une vingtaine d'années que je peux plus jeûner. Ouais, c'est ça. Et je peux dire que j'ai été... Tout à l'heure, tu disais un truc qui m'intéressait, c'est les gens qui jugent, justement. Et moi, j'ai été jugée, cataloguée. Parce que moi, si tu veux, je suis pas le genre de meuf. Pardon, Vanessa, tu me connais, je parle que...
Oui, comme ça. Oui, oui, non, mais t'as
raison.
Je
vais pas changer ma personnalité pour être quelqu'un d'autre. Hein. Je suis pas le genre de meuf, si tu veux... Pour le regard des autres, à l'époque, je fumais, donc je sortais ma clope. J'étais maquillée, alors que, tu sais, pendant le Ramadan, soi-disant, tu ne dois pas être maquillée. Donc, on me regardait de travers.
Ah, ouais.
Les robeux de la cité, du quartier, de la ville, peu importe. Mais moi, si tu veux, quand j'étais plus jeune, j'étais plus susceptible, etc. J'avais pas de recul, donc je prenais mal.
Ouais.
Et maintenant, bah après, avec les années qui se sont passées, j'en ai rien à cirer. Parce que, si tu veux, le regard des gens, les gens, ce qu'ils vont dire, moi, j'en ai rien à cirer. Je comprends ce que je veux dire.
Mais tu as raison.
Si tu veux, c'est...
Mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un combat. C'est une lutte.
Non, mais ça s'apprend avec le temps.
Ah oui, mais tout le monde n'a pas cette force. Et c'est valable. Alors, quand on parle de l'islam, on parle des musulmans parce que on est dedans. Mais en réalité, c'est valable dans les autres religions. T'as que les chrétiens qui, si tu veux, ils vivent une autre réalité. Ils ont avancé avec les siècles. Ils ont su, voilà, s'adapter aux siècles et puis fichent la paix aux autres, vivre. S'ils sont chrétiens, on le sait pas. S'ils le sont pas, on le sait pas. Voilà, ils sont tranquilles dans leur truc. Nous, on n'est pas encore sortis de ça. Hein, on n'a pas fait encore le chemin. Il est long. Et chez les juifs, c'est un peu pareil aussi, pas au même niveau, mais c'est un peu pareil. Moi, j'ai vécu avec les juifs, puisque j'ai vécu dans le quartier juif de Paris. Et donc, voilà, que je connais très bien, qui, eux, comme un peu comme nous, tu vois, vivent dans une forme d'un peu d'hypocrisie, quelque part. Parce que, par exemple, devant les autres, ils vont faire comme si, qui vont faire comme si pratiquer, alors que pour certains, ils ne pratiquent pas. Ils te le disent, mais ils te disent, ouais, mais faut pas que ça sache, en disant qu'est-ce qu'on penserait de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire le Pâques, etc. Il y a des contraintes aussi dans chaque religion. Eh bien, chez les juifs, c'est pareil. Moi, je connais bon nombre, j'ai beaucoup d'amis juifs. Et d'ailleurs, je remercie ma copine, Sandrine, qui m'a ramené ce week-end un très joli bracelet rouge. Tiens, je mettrai. elle m'a dit, ça me portera bonheur. Bon, ça va me porter bonheur. Alors, j'en ai beaucoup, alors j'en connais, qui, pour beaucoup aussi, vivent dans une forme d'hypocrisie. Ils vivent dans une forme d'hypocrisie parce qu'ils ne pratiquent pas tous, il ne faut pas croire. C'est comme nous, c'est la poudre aux yeux. Voilà.
Tu sais ce qui me.
Le problème, il est là.
Dans ce bas monde.
C'est dans toutes les religions, sauf les chrétiens.
En 2020, ce qui est triste, la triste réalité de ce bas monde, c'est. On parle d'évolution et tout ça, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça parce que. Je veux dire, moi, bon, ça n'engage que moi, évidemment. Je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui pensent à moi, mais à quoi bon, si tu veux, à quoi bon s'inquiéter de ce que va penser Pierre-Paul Jacques de moi parce que j'ai pas jeûné? Qu'est-ce qu'il connaît de ma vie si je suis malade, pas malade, ou parce que simplement je jeûne pas, ou parce que je ne suis pas pratiquante? Il le sait pas du tout. La personne en face, le voisin, le postier ou peu importe, il sait pas. Je veux dire, si je suis moi personnellement, je suis croyante, mais ça me regarde. Moi, je considère que logiquement, dans la religion, sans rentrer dedans, parce que sinon, pour moi, c'est un débat sans fin, c'est personnel. Ça se passe dans le cœur. Ça se passe entre la personne, l'être humain, et le créateur.
Oui, mais c'est ce que tu vis, toi, mais tout le monde ne le vit pas comme ça. Tu le vois bien dans la réalité. À notre époque, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de visibilité.
Mais moi, ce qui me dépasse, ça veut dire qu'encore à notre époque, on a encore peur de que va dire un tel. Oh, je vais pas me maquiller même si je fais pas le ramadan.
C'est n'importe quoi.
Je suis indisposée, mais je vais manger en cachette parce que il y a un tel qui va le dire à un tel. Mais c'est ta vie elle t'appartient. T'as des comptes à rendre pour les croyants. Parce que les non-croyants, pareil, je ne juge pas, moi je suis comme toi. Hein. Je suis vraiment comme toi par rapport à dans pas mal de domaines. Qui sommes-nous pour juger? Donc tu pars du principe, ça veut dire qu'en fait tu ne vis pas ta vie ouvertement et librement parce que tu as peur du qu'en dira-t-on.
Mais oui, parce que pourquoi c'est. Mais parce que aujourd'hui, il y a des générations, c'est pas nos mères, il y a des générations qui ont, depuis, elle a raison, Nassima, depuis les années 90, en Algérie, beaucoup cette de générations nouvelles, jeunes, mettent en évidence ce qu'on connaît pas nous, hein, et nos mères ne connaissent pas. Moi, je sais que nos mères, elles sont choquées parce qu'elles n'ont pas, elles sont dans une époque qu'elles reconnaissent rien du tout parce que elles sont dans une spiritualité et elles découvrent quelque chose qui est complètement inconnu pour elles. Hein, c'est un terrain inconnu. Alors donc aujourd'hui, ces nouvelles générations mettent en évidence. Une religiosité et non une spiritualité, parce qu'on peut être la religiosité, c'est quoi? C'est je te montre visiblement, voilà ce que je suis, allez, comme ça tu sais ce que je suis, et voilà, et c'est comme ça et pas autrement, je m'impose, etc. Mais ça se voit dans le comportement. Attends, je termine juste ça. Attends, dans le comportement, alors que je veux dire, la spiritualité, tu ne sais rien de la personne. Parce que il faut aller vraiment dans son intimité chez elle et rentrer dans son quotidien pour ça. Et tu découvres et tu es étonné parce que elle vit une spiritualité qui n'a rien à voir avec la religiosité. La religiosité, c'est le visible, c'est mécanique. C'est-à-dire tu montres, tu fais la prière, tac tac tac, le cœur, mais le reste ne suit pas.
C'est tellement
parce qu'il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas le recueillement, il n'y a pas la méditation.
Mais il n'y a pas que ça. Vanessa, tu le sais très bien. T'as beaucoup d'hypocrisie. Enfin, t'as des gens, par exemple, qui vont jeûner.
qui vont aller à la mosquée, qui vont justement montrer, tu vois, là, comme tu dis, je suis religieux et musulman, le montrer, mais quelque part, est-ce que tu penses que c'est sain vis-à-vis de Dieu? C'est malsain, ce comportement.
Écoute, je sais pas ce qu'ils pensent parce que j'en sais rien, en vérité.
Mais ta croyance, ouais, elle est personnelle.
Et moi, comme je suis pas comme eux, donc
j'ai envie de dire aux gens, cessez de vivre pour les autres, croyants, non croyants. Pour les croyants, c'est ce que ta vie, c'est ta vie. Ta pratique, c'est ta pratique, c'est dans ton cœur, c'est chez toi, ça ne regarde personne. Faut arrêter d'avoir peur d'être jugé par les autres. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie. En fait, on vit pas. Ça veut dire que là, moi, Nadia Ben, je vais changer de comportement pour faire plaisir à la voisine ou à quelqu'un du quartier ou de la ville ou quoi. Jamais de la vie. Mes filles, elles font le ramadan. Les jours où il fait très chaud, tu sais, il y a sport et tout. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'elles jeûnent. Je leur dis, tu vas faire un malaise. Non, non, maman, on gère. Je respecte. Mais c'est le jour où elles me disent « Maman, on ne veut pas, je ne veux pas les obliger. » Il faut que ça vienne d'elles. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire, Vanessa? Et moi, ça me dépasse tous ces gens hypocrites, malheureusement, qui se disent musulmans, pratiquants. Mais attends, comme tu dis, c'est plus de la spiritualité,
oui.
Voilà, c'est plus ça, c'est dommage, tu vois.
Ben oui.
Parce que la base de tout ça, finalement, c'est quoi? Normalement, c'est le bon comportement, la bienveillance, aider son prochain, éviter de faire du mal.
Ça, on n'a pas besoin d'une religion pour ça. Hein, parce que.
Ah, une connerie ce matin, on est allé en cours voilà. Avec ma fille. Oui. Et on s'est tapé des barres de rire avec Nina. D'ailleurs, je lui fais un bisou, elle est chauffeur Uber. Oui. Elle travaille de nuit.
Oui.
J'embrasse aussi Nacera et Zara.
Très bien.
Voilà. Alors, et on se tapait des barres de rire, oui. Et puis voilà, puis on s'est pris la tête, tu sais, Nina, voilà, c'est nerveuse. Et puis on s'est moqué gentiment, et tout de suite, entre nous, je le dis entre nous, on a dit, oh, c'est un flyer B. Parce que, voilà, c'est le comportement. On s'est moqué, c'est pas méchant, mais on demande quand même pardon à Dieu, pour une petite connerie comme ça. Mais on n'est pas voilé et on ne crie pas haut et fort. Tu vois ce que je veux dire?
Mais le reste, tout le respect. On va aller très vite. En tout cas, merci
voilà,
Nadia.
Voilà, en tout cas.
C'était très intéressant. Gros, et,
c'est
un témoignage.
Les gens, vivez vos vies comme vous le
souhaitez. Merci. Je t'embrasse très fort. Oui.
Moi aussi, je t'embrasse très fort. Juste une chose.
Oui.
Respect, je voulais te dire encore une fois. Je sais que je te le dis toujours. Mais vraiment,
mignonne.
Plus je t'écoute et plus c'est génial.
Je t'adore.
Il n'y a pas de mots. Vraiment, tu es unique.
T'es un amour.
Vraiment, je t'adore. Tu es vraiment absolument formidable.
T'es un amour. Moi aussi, je t'adore. Toi aussi, Rabbi Jim, je fais plein de bonnes choses pour toi. Je t'embrasse très fort. À bientôt, Nadia. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Notre Nadia, oui, c'est une résiliente. C'est une grande dame, Nadia. 01 53 48 3000. Alors, est-ce que Naoufel, il est de retour? Dis donc, hein, Naoufel. Allô? tu vas être interdit de séjour à la radio, sur les ondes. Naoufel, il fait exprès ou quoi?
Là oui, là quand même, il en fait exprès.
C'est vrai?
Il me parle standard et tout va bien.
Alors, Naoufel. Bon, écoute, on t'enlève. Tu me l'enlèves, m'énerve. Ah oui, moi j'ai pas de patience, hein. Ça va très vite. Hein. On va laisser la place à ceux, parce que le standard il est plein, il est blindé. Donc on va laisser au moins la place à ceux qui veulent vraiment s'exprimer, n'est-ce pas? Bon, allez, on va accueillir Karim, un monsieur, un homme, on va voir ce qu'il va nous dire. On est avec des dames là ce soir, elles sont pleines d'ouverture d'esprit les femmes, elles sont dans la spiritualité, dans l'avancée, j'ai beaucoup aimé ce soir. Hein. On va voir, les hommes c'est pas pareil, vous allez voir. Je ne vous dis que ça, mon petit doigt me dit que... Karim, bonsoir.
Bonsoir Vanessa.
Bienvenue Karim.
Monsieur de Paris.
Ah Karim de Paris, t'avais appelé l'autre fois.
Karim. Femme Karim, ouais.
Ah, c'est toi qui avais appelé.
Ah, bah oui, c'est ça.
Ah, mais t'as pas raté, là, c'est ton soir, là.
Le sujet de ce soir, ouais. Je sais pas comment m'exprimer, mais vraiment, c'est top, quoi. C'est le top.
Je
au moins, comme ça, on casse certains tabous, on peut s'exprimer librement, on peut dire des choses.
Bien sûr.
Et même si, en fait, on peut pas les dire devant les gens, mais là, à la radio. On peut s'exprimer et casser le tabou.
Voilà, comme je te disais tout l'autre jour, Karim, pour que tu comprennes bien. Ouais. On ne t'a pas cassé du sucre sur le dos. Les gens étaient mécontents. Pourquoi? C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout, même de ça, tu vois, de ce sujet, mais, mais parce que là, on est en train de parler de finalement de manque de tolérance chez certains et de toutes dans toutes les religions. Mais sans, parce que toi, ton problème, c'était quoi? C'était taper sur l'islam, les musulmans, etc.
C'est pas taper.
Tu étais très maladroit ce jour-là.
Non, c'était
de l'attaque directe.
Si je dis quelque chose, tu le dis par connaissance, en fait. Je dis jamais.
Mais c'était de l'attaque, t'es rentré dans les textes et tout ça.
Hermaphrodite, moi je connais parce que je les délivre et tout. Mais en fait, la majorité des croyants, ils connaissent pas tout ça en fait. Ils sont fermés dans leur religion, leur livre ou le Coran et basta. Ils connaissent rien, ils lisent pas des livres ou ils cherchent pas à comprendre. Donc pour eux, leur monde il est tellement petit.
Non, t'as pas le droit de dire ça aussi, tu vois.
Karim, écoute-moi.
Là tu stigmatises, tu dis ils sont fermés, etc. Non, c'est pas ça. Parce que on a le droit, quand on est dans une religion, chacun la sienne, on a le droit de lire son livre et de respecter son livre, mais en même temps, s'ouvrir au monde et aussi avoir le respect pour les autres. Tu comprends? Et être dans l'ouverture en même temps.
Pourquoi
ce qu'on leur reproche, c'est la fermeture. C'est pas ce que.
Oui, c'est ça, c'est le dogmatisme
Mais pas dire il y a écrit machin. Non, ça non. Ça, je ne toucherai pas, tu vois.
Écoute, Vanessa, quand par exemple, t'as envie de partir au bled en Algérie, par exemple.
Oui.
Moi, j'ai envie de vivre librement, j'ai envie de faire ce que je veux, en fait. Mais du moment qu'il y a ces idées-là, tu peux pas. Parce que c'est des idées imposées. Ben, tu peux pas être libre, tu peux pas, je sais pas, moi, genre, t'as l'impression qu'il n'y a pas de vie. Moi, en fait, moi aussi, j'ai envie d'imposer mes idées, quoi. Mais sans porter
c'est-à-dire
atteinte à autrui.
Je comprends ce que, là-dessus, je te rejoins, parce qu'il n'y a pas cette liberté.
Et pourquoi? Tout à l'heure, tu disais que voilà, pour les gens, ils sont comme, moi, je te dis pourquoi ils sont comme ça. C'est le discours religieux. La religion, elle est partout, sur les télévisions, les mosquées, partout, la religion. C'est pour ça, on endoctrine les gens tous les jours, en fait. Mais c'est qu'il n'y a pas que la religion dans la vie. Pour moi, je vois pas pourquoi j'existe et pour ne pas vivre. Moi, j'ai envie de vivre. Et où est le problème? Parce que dans la religion, malheureusement, tout est interdit. Du moment que tout est interdit, on ne vit pas. Tout à l'heure, tu parlais de code
de la famille.
Je te rejoins, tout à fait d'accord. Le code de la famille, il est inspiré par les lois islamiques. Malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'héritage, la femme et tout, ça, c'est inspiré des lois islamiques. C'est vrai ou pas?
Il y a une inégalité entre l'homme et la femme. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, le judaïsme et le christianisme, si tu veux, il y a encore ça, dans leur culture. Alors que les chrétiens, quand on regarde en Europe, les chrétiens, par exemple, quelque part, ils textualisent, finalement, ils contextualisent, les événements. Et ils font aujourd'hui, ils font un petit peu la part des choses. Aujourd'hui, par exemple, parce que dans la Bible, il y a aussi. Excuse-moi. Dans la Bible, il y a beaucoup d'interdits. Attention, parce que le Coran, il a rien inventé.
Le Coran n'a rien inventé.
Le Coran a repris ce qu'il y avait.
Ils ont réformé. Les chrétiens, ils ont fait une réforme. Ils ont réformé. Les juifs, pareil. C'est pour ça. Il faut que les musulmans aussi réforment. On est en 2020, on n'est plus patience à avancer, on ne vit plus dans le Moyen-Âge, quoi. Genre, comment ça se fait? Moi, tu ne peux pas mettre une loi qui existait il y a 14 siècles en 2020. Ça, c'est aberrant, c'est imbuvable. Donc, soit il faut réformer. Pourquoi, moi, en fait, je te parle à chaque fois de la science. La science a tout révélé. On ne peut pas, genre, la science, si tu tombes malade, tu vas au médecin, tu ne vas pas faire un doua pour que Dieu te fasse ça ou ceci. Nous, en fait, tout est lié à la religion, malheureusement, surtout en fait, le pouvoir en ce moment, le pouvoir, ce qu'il aime que la religion soit toujours un facteur fondamental dans la société.
Il y a des pouvoirs, c'est vrai, qui se servent, qui se gavent de. Karim, est-ce que je peux te laisser en attente comme Nassima? Et s'il y a des personnes qui veulent débattre avec toi et Nassima,
vas-y.
On peut le faire?
On va mettre
Karim en attente. Et on va accueillir, par exemple, Hamid de Saint-Étienne. On a Samy de Rouen, Rachid de Paris. Et peut-être qu'ils vont vouloir débattre avec nos amis qui sont en attente. On va aller très vite. Hamid, bonsoir Hamid.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Hamid.
Merci, bonsoir. Je voulais répondre au monsieur là qui parlait à l'instant. En fait, parce que moi je suis d'origine d'Algérie et un petit peu français aussi. Je suis des deux quoi.
D'accord.
Parce que mon père il est français et ma mère est algérienne. D'accord. Mais par contre j'ai été en Algérie. Moi je suis confession catholique. Parce que je m'appelle Béni Alix et Hamid aussi pour ma mère.
T'as les deux prénoms, voilà. C'est bien. Tu bénéficies de.
Oui voilà. Le problème c'est qu'ici en fait il y a séparation de l'Église et de l'État donc voilà. Ah, oui. Et qu'en Algérie la religion fait partie de
ça.
L'État, quoi.
C'est ça. Oui, voilà. C'est ça.
Après, moi, j'ai été là-bas, je suis fier d'être catholique, mais je respecte toutes les religions, que ce soit musulmane ou juif ou chinois, complètement, voilà.
C'est bien,
après,
c'est bien.
Ouais, je me suis promené un petit peu partout en Algérie, je voulais découvrir, donc j'ai été plusieurs fois, ça me plaisait beaucoup.
Ouais.
Et j'ai des copains, tout ça, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là.
Ah ben c'est super.
Alors, on m'a pas dit, non, pourquoi t'es chrétien, pourquoi je suis, pourquoi
non,
cela,
non,
il y en a aucun.
Ah non, il te dira pas parce que t'es chrétien, ta mère elle est française, t'es chrétien. Mais par exemple, un Algérien...
Non, ma mère elle est algérienne, c'est mon
père. Oui, mais ton père, il est chrétien, ton père, voilà. Alors, mais un Algérien...
Après, je suis pas dans la religion catholique. Plus,
oui, mais enfin, ton père, il est français, il est chrétien,
oui,
donc ça ne les dérange
voilà.
pas. Hein. Ah, il n'y a pas de
non,
problème.
Non, mais c'est pas dire qu'il est chrétien, qu'il est pratiquant, quoi.
Non, non,
il
mais
est chrétien,
je suis en train de te dire, il n'est pas musulman. Mais un Algérien de parents musulmans, eh ben là-bas, il est surveillé, il est sous haute surveillance, hein. Pendant le ramadan, on lui tombe dessus. Hamid,
parce que ma mère est d'origine de la Kabylie, quoi. Mais ouais. Là-bas, il y a des chrétiens. Mais enfin, je sais pas s'ils font du catéchisme, tout ça, ou ils se disent chrétiens tout simplement comme ça, mais je ne sais pas, quoi.
Bah écoute,
j'en ai vu certains qui sont convertis, quoi.
Oui, c'est vrai. Hamid, je suis obligée de te laisser parce qu'on a un débat là, juste après avec Karim qui veut débattre. Reste à l'écoute, ok.
D'accord.
Je t'embrasse. Bon. Merci d'écouter et puis reviens surtout, ok.
Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci Hamid, à bientôt. Bisous. Allez, je vois que Karim veut débattre. Alors, non, Karim, il est toujours là, c'est notre Karim de tout à l'heure.
Ouais.
Qui c'est qui veut débattre? Est-ce que Rachid et Samy. Tiens, demande-leur s'ils veulent débattre. Demande-leur. On va les prendre à l'antenne. Tu leur demandes. En attendant, je vais redonner le numéro. Voilà. Alors, donc, on a Nora aussi du Val-de-Marne. Mais on va voir si Samy de Rouen et Rachid de Paris veulent débattre avec Karim et Nassima. D'accord? Comme ça, on les met tous les quatre à l'antenne, comme on fait avec les autres fois. Vous vous rappelez, avec Méziane, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, lui. Qelah Lema lui a donné un coup de casserole sur la tête ou la... un coup de je ne sais quoi, mais il est voilà, disparu, inconnu au bataillon. Alors, ils veulent bien débattre, c'est ça? Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Nicolas, vas-y, dis-nous
qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce qu'on fait? Je répare le standard, déjà.
Oh et mince, après, on verra. Ben voilà. Et voilà, parce que vous êtes tellement nombreux à appeler en vérité. Je vous le dis, mes frères, vous êtes très nombreux à appeler chaque soir. Confidence sur Beurre FM. Alors, eh bien, on va prendre Rachid. On prend Rachid. Rachid, oui, bonsoir.
Là.
Ah,
oui,
t'as
d'accord.
Un problème, là. Essaye avec Samy de Rouen. Peut-être que ça va marcher. Aïe, 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 je croise les doigts. Parce que des fois, ils nous lâchent, hein, le standard, quand vous êtes nombreux. La rançon
Allô
du succès. Bonsoir, Samy de Rouen.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bienvenue, Samy. Oui, très bien,
merci,
je te remercie.
Comment allez-vous?
Ah ben je vais bien, moi je te remercie.
Le débat est passionnant, franchement.
Ben il faut qu'on fasse bouger les choses. Parce qu'on est tous là, Zama, dans notre coin, à dire « Ah oui, tout va bien, tout va très bien. »
Franchement, le débat est passionnant. Moi, je rejoins un petit peu le dernier auditeur, là.
Karim.
Ce qu'il dit, en réalité, on n'a aucune liberté. Moi, je vois par exemple, j'ai pas de tabou avec mes parents. J'ai 50 ans aujourd'hui. Mon père nous a jamais forcé sur des choses à faire, ni le ramadan, ni ce qui va avec.
Oui.
Et c'est vrai, aujourd'hui, je ne l'impose pas non plus à mes enfants. Et en réalité, on est obligé de vivre avec le monde extérieur.
Ah, c'est vous.
Moi, j'ai passé
c'est
un mois de ramadan.
Où ça?
Dans mon pays d'origine, qui est le Maroc.
Oui.
J'étais obligé de me cacher.
Ah ben
ça veut dire, le café, je le prends chez moi en four. Je ne peux pas le faire publiquement.
Mm-hmm.
Quand je sors dehors et j'ai soif, et ben malheureusement je bois discrètement, je fais des choses et en réalité qu'est-ce que je voulais dire, c'est, ouais non mais franchement on est il y a tellement une emprise extérieure qu'on ne peut pas faire grand-chose.
Mais il n'y a nulle contrainte en religion, Samy. Samy, je te laisse en attente. On va prendre un... ce qu'on va faire, je voudrais que tu fasses débat. Tu veux bien participer
au
débat ?
Vas-y,
super,
vas-y.
Super, super, super. On le garde. On a Rachid qui nous appelle de Paris. On va prendre... Je vais prendre Rachid, là, tout de suite, si possible.
Allô, oui.
Ah, ben, c'est bon, allô Rachid. On enlève Samy, on le laisse en attente, Samy. Voilà, parfait. Rachid, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Oui, bienvenue,
donc,
Rachid.
Oui, voilà.
Alors
J'ai suivi un peu ce débat.
Oui.
Qui se focalise un peu sur la religion.
Non, c'est pas la religion. Enfin, c'est ce que les gens en ont fait aujourd'hui. C'est un constat.
Voilà. Mais
et c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est pas en se taisant dans son coin, en disant...
Exactement.
Tout va bien, alhamdoulilah. Alors là, on s'enfonce.
Mais c'est tout... gravite autour de la perception de la notion de liberté.
Et voilà. Et voilà. Et ben on en est là.
Oui.
Ben oui.
Donc, ce que je pense,
mm-hmm.
il y a, avant, parce que je me souviens, on était plus libre, plus détendu que maintenant.
C'est ça, c'est ce qu'on dit.
Il y avait, sauf à partir des années où vous avez cité
90.
Les années funestes,
oui, c'est vrai.
Qu'on a vécu et survécu.
Ouais.
Donc c'est ça provenait de la matrice du mal.
Mmh.
Et la matrice du mal, elle avait un épicentre.
Oui.
C'est ça venait de l'Orient et plus exactement de l'Arabie Saoudite. Il y avait beaucoup de textes et des gens qui s'abreuvaient à ces textes et on n'en connaissait pas nous. On est rentré dans ce dilemme et on était dans l'insouciance. On avait une religion, une pratique toute simple.
Et autour de la religion qui était adaptée aussi à la culture. Il y a,
exactement,
par exemple, dans chaque région d'Afrique du Nord, je dis bien d'Afrique du Nord parce que c'est pas qu'en Algérie, par exemple à Alger, c'est des Mohamed, c'est des Abdelrahman, et
oui,
à l'Ouest, c'est des Boumediene, et dans d'autres régions, c'est, voilà, il y a plein de saints que les gens en Kabylie, pareil, eh bien, les gens, si tu veux, ont su adapter et la religion, en même temps, à leur pratique culturelle, qui était la spiritualité, parce que les saints, ce sont des patrons, on appelle ça les patrons saints c'est des gardiens, les gardiens de la ville ou du village, et que les gens respectaient, pas vénéraient, mais respectaient, et autour de ça, eh bien, les gens se retrouvaient, parce que c'était leur culture et leurs ancêtres. Et quand,
exactement,
les années 90, si tu te souviens, puisque tu l'évoques, Rachid,
oui,
eh bien, pour m'être intéressé comme toi là-dessus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont brûlé. Ils ont brûlé ceux que tu évoques là, hein, qui ont. Eh bien, ils ont brûlé ces lieux. Les gens n'avaient plus le droit d'aller au cœur de ces saints. C'est des mausolées, des marabouts où on se retrouvait, on mangeait du couscous. Il y avait des offrandes, c'était magnifique. Il y avait une ambiance spirituelle. Cette spiritualité, ils nous l'ont volée. Ils nous l'ont spolié.
Ça fait partie de l'identification historique, hein, de l'histoire, hein,
et exact,
de notre histoire.
Exactement.
Et ce qui me fait, qui m'a marqué au fer rouge, c'est ces années-là, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. C'est les gens qui ont payé de leur vivant, ils sont morts gratuitement.
Oui.
Mais la liste elle est longue. C'est pas la peine de citer tout ça parce que ça fait remuer le couteau dans la plaie.
Moi j'ai juste envie d'évoquer justement le symbole puisque
voilà,
tu en parles. Le symbole.
Parce que le savoir.
Excuse-moi, Katia Ben Ghana qui a été assassinée par des islamistes à l'époque, hein, parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. C'est une héroïne parce qu'on lui a imposé, ses camarades, pour la plupart, ont accepté parce qu'elles avaient peur, puisqu'il y avait des menaces, et elle a dit non, Katia, en Kabylie. Elle a dit non.
Exactement.
Eh bien, elle partait comme ça, cheveux nus à l'époque, au collège, comme d'habitude. Eh bien, je crois que c'était en 2010. Non, c'était les années 90. Voilà, chercher le
90,
terme.
94.
Voilà. Elle est morte exactement le 28 février 1994. Katia Benguena, qui était née à Meftah, en Algérie.
Je me souviens.
Voilà.
Exactement. Et il y a aussi
Pardon ?
Et il faut pas oublier 12 enseignantes qui ont été égorgées au mois de septembre en 94. Du côté de Sidi Bel Abbès.
C'est
le savoir, la symbolique, là.
Bravo.
Elle est énorme.
C'est ça.
Parce que c'est le savoir qu'on massacre.
C'est ça.
On massacre des vies, des innocentes, qui allaient travailler, qui allaient enseigner, donner le savoir dans le fin fond, le fin fond de l'Algérie profonde. Et là, elles étaient égorgées par la bête immonde. Attention aussi, cette bête immonde, on veut la nourrir, on essaye de la nourrir, parce que le carburant existe toujours.
Aïe.
Le carburant idéologique existe.
C'est vrai, ça, c'est pas fou.
Voilà. Hein, et à cet effet, moi, je voudrais être court ce soir.
Oui.
C'est parce que moi, je pense, mon domaine, c'est ce qui est le savoir, éducation. Et dans tout ça, il y a des âmes qui cherchent qu'à s'instruire, connaître l'alphabet pour connaître ce monde, pour se construire. Par exemple, moi, j'étais inspiré par la discrimination sociale qui a prévalu en Afrique du Sud un certain temps.
Mm-hmm.
Et surtout, elle a touché le savoir, les écoles.
Mmh.
Et donc, je me suis focalisé sur ce thème, l'école.
Oui.
Parce que dans ce pays, durant une période, les enfants étaient sous la domination des Blancs. Et les établissements, ils étaient séparés dans les établissements.
En
Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, oui, l'apartheid, oui, d'accord.
Et
okay.
À l'arrivée de. Enfin, et ensuite, les années 90, là, ça a été un tournant décisif pour l'accès aux libertés. Et de ça, je me suis inspiré pour écrire un petit texte.
Oui.
Je vais vous le lire.
Je veux bien, vas-y.
Oui. Donc, c'est des enfants qui sont ravis de retrouver l'école. Et sur une image, parce que moi, c'est mon travail. Enfin, c'est mon travail. C'est mon plaisir. C'est mon pain béni.
Oui.
Donc, le texte, c'est air avide. C'est les enfants. Ils ont l'air avide de retrouver l'école. Hein.
Avide d'apprendre. Avide de savoir.
Oui. Air avide, un garçon alerte fixe son objectif. Avec sa posture d'être attentif et des yeux vifs. Oh, il n'a pas besoin d'une émotion. Son regard en dit long sur sa perception. Hélas, tel est ce corps qui pense à sa chair rigidité. Abandonnant la mélasse d'une déshumanité. Maintenant, il croit qu'il la dépasse afin que nul ne trépasse. Voilà, c'est le texte.
C'est de toi ?
Il découvre la classe.
D'accord.
Il découvre le tableau.
Oui, oui.
Il découvre un enseignant.
Très imagé,
les premières lettres. Oui. Avec cet air avide, il fixe son objectif. L'objectif là, il faut lire entre les lignes.
Oui.
Donc la nuance et le tableau, avec les yeux vifs.
Oui.
Avec toute... il n'a pas besoin d'une émotion, l'émotion elle est là.
Tout à fait.
Le regard en dit long sur sa perception.
Oui.
Et là, tel est ce corps qui pense à sa chère rigidité. Et ça renvoie à autre chose, la rigidité qu'il avait.
Oui.
Et là, maintenant, il n'est plus dans cette déshumanité. Il la dépasse.
Mm-hmm.
Et j'ai cité la mélasse. Vous voyez la mélasse. Pour avoir la mélasse, bon, ça sort du sucre. Hein.
Oui.
Hein, lorsqu'on a le sucre, c'est le gâteau. Et le gâteau, et on en fait de la mélasse.
C'est bien.
C'est un sirop.
Oui.
Et maintenant, il croit qu'il la dépasse. Afin que nul ne trépasse.
Ah ben écoute, c'est magnifique, Rachid. Bravo.
Voilà, ils ont les autres terres sur le corps.
Ah oui, mais il faudrait que tu nous que tu rappelles régulièrement et que tu nous en cites quelques-unes de tes.
Ça, c'est un.
Je compte sur toi.
D'espoir Merci. Sur la connaissance, le savoir. Ben, il va balayer. C'est le savoir.
C'est le savoir. Parce que le savoir. Tout à fait. Je suis d'accord.
Le savoir, c'est l'humanité. Hein. L'humanité repose sur le savoir.
Mais complètement, complètement.
Voilà. Oui. Et le Dieu, il dit dans un verset du Coran, il dit, c'est-à-dire, Dieu ne modifie rien en un peuple, chez les personnes, avant que celui-ci, ce peuple, ne change ce qui est en lui.
Mmh.
Ce qui est en lui, c'est-à-dire nous. Parce que tout ce qui parle de la religion, c'est dans le contexte, c'est contextuel.
C'est contextuel, c'est-à-dire, mais c'est ça, mais ça, c'est, oui, va aller faire comprendre.
Nous, on vit un autre contexte.
Tout à fait.
On vit c'est un autre contexte.
Ah, mais c'est compliqué de
remonter le temps. Voilà. On ne peut pas remonter le temps.
Mais d'inculquer.
Et courir avec les sabres.
Voilà.
Non.
C'est contraire.
Maintenant, il faut courir avec le savoir.
Voilà, c'est aller contre le vent. Merci beaucoup, Rachid.
Voilà.
C'est magnifique.
Voilà,
je t'embrasse.
Je voulais pas être.
Non, c'était magnifique. Merci beaucoup.
Voilà,
en tout cas.
J'ai d'autres textes aussi.
Eh bien, reviens avec d'autres textes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais reprendre nos amis.
C'est une inspiration que j'ai développée dans des ateliers de paroles.
Ça, c'est magnifique. Mais on voit.
L'éloquence,
mais on l'entend, on le voit, hein, vraiment. Hein. J'allais te demander si tu ne faisais pas partie d'une troupe de théâtre ou d'un cours de théâtre.
J'ai fait le théâtre aussi en arabe et en français.
D'accord. Ben écoute, reviens nous en parler une prochaine fois.
Sur ne touche pas à mon pote à l'époque.
Ah oui, ça y est.
Ne touche pas à mon pote en 83.
Oui, SOS racisme.
J'ai écrit, j'ai rédigé.
Rachid, tu nous en reparleras la prochaine fois, s'il te plaît. Voilà. D'accord, mais reviens la semaine prochaine. Je t'embrasse, moi aussi. Voilà, on est obligé d'aller très vite. J'aimerais bien entendre encore d'autres textes, mais c'est vraiment très beau et puis plein de sens, en tout cas. Alors, donc, on va prendre Abdel qui nous appelle du 94. J'aimerais faire passer tout le monde. Puis on a Karim, Samy et Nassima qui attendent pour débattre. Hein. Abdel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Abdel, bienvenue.
Oui, merci. Alors, en fait, moi, je voulais un petit peu parler, parce que j'ai écouté un petit peu votre discussion, et je trouve qu'il y a des petits points qui sont un petit peu réducteurs. Parce que de dire que nul contrat en religion, il faut savoir que Dieu a donné cette possibilité. Et malheureusement, c'est les gens qui mettent de la contrainte. Donc, je trouve un petit peu bas de se moquer
on n'est pas en train de se moquer puisqu'on n'a pas évoqué aucune sourate. Hein. Mais je suis en train de. Quand on dit nul contrainte en religion, on parle des gens. Non, mais arrêtez d'être susceptible, ça suffit parce qu'on ne va pas avancer.
Mais
tu sais ce qu'on a dit? Tu sais ce qu'on a dit? Oui.
Gens,
ah oui, mais on peut le dire en boutade.
La contrainte, tout simplement.
Oui, mais attends.
Attends.
L'apostasie, ça vient d'où?
L'apostasie?
Ouais, le délit d'apostasie. Le délit d'apostasie. Le délit d'apostasie, il existe ou pas?
Le délit d'apostasie?
Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe ou pas? Parce que je ne sais pas si tu as connaissance ou pas de ce délit-là, qui existe, hein, et qui est dans la charia. Ah, il existe, il est dedans. Hein.
L'apostasie, c'est d'avoir une croyance et puis après de la rejeter.
Ah oui, l'apostasie, c'est-à-dire de ne plus être croyant. De plus croire en Dieu.
De plus être croyant.
Voilà, de plus être musulman. Eh ben ça, dans certains pays musulmans, ça t'emmène directement à l'échafaud, direct. Et dans les pays du Maghreb,
attends.
Et dans les pays du Maghreb où il n'y a pas cette peine de mort, ils vont plus jusque là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben on met les gens en prison. Parce que le délit existe, Abdel.
Le délit, après, moi, je pense que la religion, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je vois pas déjà.
Mais le délit, existe. Ben, le délit existe.
Une personne qui veut pratiquer, elle est libre de pratiquer. Une personne qui ne souhaite pas pratiquer,
t'as pas le droit de dire ça.
Tout simplement.
La religion te dit pas ça.
Ah, si.
La religion te dit de ne pas sortir de la religion. Il te dit de poursuivre celui qui sort de la religion, de le poursuivre et de, voilà, c'est pour ça que dans les pays musulmans, c'est ce qu'ils font. Et que t'as pas le droit de sortir de la religion. T'as le droit, d'y entrer. Ah ben voilà, ça veut dire que t'es pas au courant. Attends, on va prendre nos amis.
Non, c'est pas
t'es pas au courant,
Non, mais c'est juste...
Tu n'as pas le droit de sortir de la religion. Il n'y a pas une contradiction là ? Tu sens pas qu'il y a un truc.
Sortir de la religion, si maintenant on adhère à une croyance.
Et tu as le droit de sortir ?
On est convaincu.
Tu es né musulman. Tu es né.
Non, on n'est pas né musulman.
Mais c'est incroyable. On est dans une famille musulmane. Attends, et du genre.
Mais je peux t'expliquer.
Bien sûr. Voilà, il y a des gens, par exemple, dans les pays du Maghreb. OK ? Et en Algérie notamment.
Dans tous les pays musulmans.
Allez, on y va. Dans tous les pays musulmans. Ouais. Eh bien, un musulman qui du jour au lendemain dit je ne crois pas en Dieu et je ne suis plus musulman, je ne suis pas musulman, je ne crois pas en Dieu. Eh bien, cette personne.
Mais il est libre.
Ben non.
Il est libre.
Ben non.
Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un délit d'apostasie. On n'a pas à le forcer.
Attends, on va lui dire.
Chacun répondra de ses actes.
Eh ben écoute.
On ne peut pas forcer une personne à le croire.
Mais je te dis, oui, mais comme c'est dans les textes, ils appliquent les textes. Voilà. Nassima, j'ai raison ou pas ?
Moi, j'ai jamais entendu ça.
Eh ben tu vois, il y a plein de...
En toute honnêteté, moi, j'ai jamais appris la religion de cette façon-là.
Mais on vous le dit. Mais c'est normal. Ils n'ont pas intérêt à nous le dire.
Tout le monde est libre de pratiquer sa religion. Et c'est quelque chose de personnel.
Ah là là, Nassima,
il faut savoir que quand on rentre dans la religion, il y a des étapes.
Nassima.
Comment est-ce qu'on traite le Moctezine dans la religion? En islam.
Toi qui t'y connais, Nassima, vas-y.
Comment il
Mortad, ce qu'on appelle Mortad. C'est quoi?
Il sait pas. Te casse pas la tête, Abel, c'est pas.
Ah oui, venu,
non, mais. Il parle de choses qu'il sait pas.
Déjà,
non,
Laisse Nassima. Adhérer
à la religion, déjà, m'a fait mal. Pourquoi on parle d'adhésion ? Pourquoi je suis obligée d'adhérer ? Pourquoi on parle pas seulement de croyance ?
Laisse-la t'expliquer.
Ça veut dire quand on adhère à quelque chose, on s'engage. Et du coup, quand
on s'engage, ça veut dire qu'on n'a
pas le droit.
Mais laisse-la t'expliquer.
Quand on parle du premier pilier de l'islam, on atteste. On atteste d'une chose.
Oui,
c'est-à-dire qu'on a pas pour l'ensemble de l'humanité.
Mais on a le droit de douter. Et si un jour, on n'en est plus aussi convaincu qu'avant, on a le droit d'en sortir. Pourquoi est-ce que ça serait un sacrilège? Pourquoi est-ce que ça serait mal vu? Pourquoi est-ce que je serais obligée de me cacher?
Mais pourquoi être rentré? C'est ça le truc. On n'a pas demandé aux gens de rentrer.
Mais c'est pas être rentré. Tu es né dans une famille musulmane. Arrête, Abdel. Voilà. Arrête de détourner le truc.
Quand tu es né dans
une famille musulmane, tu ne vas pas dire à tes parents du jour au lendemain, voilà, si tu leur dis ça, eh bien, je vais te dire une chose, eh bien, tu es condamné, pas par tes parents, mais tu es condamné à faire de la prison. Mais elle te le dit, Nassima te l'a dit. Mets-nous Karim, il est au courant. Karim.
Alors, vous voulez juste ajouter une question. On est musulman dans les familles musulmanes, parce que toi, quand tu viens au monde, on te dit Allah, on te met le Adhan. En fait, nous, on est dans ton oreille.
Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion, le Adhan ou quoi que ce soit?
Mais après, tu n'écoutes pas, Abdel. Pourquoi tu n'écoutes pas?
Déjà, la base de la religion, c'est le tawhid. C'est la base de la religion.
C'est quoi?
On parle de
la base, c'est les valeurs morales, c'est les principes.
Non, c'est une éducation.
Oui, l'éducation.
C'est une éducation. Il ne faut pas mélanger l'éducation avec la religion.
Attends, on va écouter. Excusez-moi, on va écouter Karim. On va écouter Karim. Karim. Tu es là, Karim?
Oui, tu es là, Karim.
Alors, on parle d'Abdel. Alors voilà, est-ce que tu peux répondre, Abdel, puisque tout à l'heure on parlait d'apostat.
Il faut parler de l'unicité avant tout. Et c'est à partir de ce moment-là on peut définir une personne qui est rentrée dans l'islam ou pas.
Mais c'est pas une question de rentrer, tu es né dedans.
Tu connais même pas.
Mais c'est incroyable.
Non.
Mais tu es né dedans.
Désolé.
Mais dans les pays, attends, dans les pays musulmans, tu vas en Arabie Saoudite, attends, dans les pays musulmans, tu vas leur dire. Les pays musulmans, on parle. Arrête de détourner, tellement t'es au courant de rien que tu. Attends, dans les pays musulmans, tous les pays musulmans, leurs enfants, ils naissent musulmans?
Bah oui.
Ils sont éduqués à l'islam. Ils sont pas éduqués au bouddhisme. Ils sont pas éduqués au christianisme, au bouddhisme.
Qui font pas la prière.
Mais c'est incroyable.
On peut dire que c'est un grand problème.
Mais ils jouent
du ramadan, on parle de ça, de ci.
Bah oui, pendant le mois de ramadan, on leur tombe. Ils ont pas le droit de manger. Ils ont pas le droit de manger.
La zakat n'est même pas respectée. Donc aujourd'hui, on prend l'islam à la carte.
Ah, je crois que là, vous parlez pas le même langage, là. Attends, Karim, il veut parler.
On parle des piliers. Tout à l'heure, on parlait du ramadan.
Non, on parle pas de piliers du tout. On parle de la tolérance, de l'acceptation, de la différence.
Des gens aujourd'hui ne l'appliquent même pas.
Mais on s'en fiche. On parle pas de ça. On parle de l'acceptation, de la différence.
Ça me plaît pas, je le fais pas.
Eh ben, tu vois,
maintenant, la tolérance, l'islam, elle la donne, la tolérance.
Bon, Karim,
on est pour le respect, on respecte toutes les religions. Après, maintenant, il faut savoir.
Attends, Karim, il veut te répondre.
Bien sûr,
il va te répondre. Vas-y, Karim. Allez-y, c'est un débat.
Est-ce que tu comprends l'arabe déjà? Tu comprends l'arabe ou pas? L'arabe libre.
Oui, je comprends. Bien sûr.
Bah, pourquoi Nassima, je sais pas, elle t'a dit Mourted. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire le Mourted? Quelqu'un qui sort.
Moi, je sais pas ce que c'est Mourted.
Dans l'islam, on le tue. On le tue en 3 jours. S'il ne repentait pas, on le tue. Ça existe.
Ouais.
Tu sais que.
Ouais.
Bah oui.
Mais il essaie. Bah tu vois, Abdel, tu savais ça? Bah tu savais
plus,
pas.
Plus fort que ça. En fait, l'islam, pour moi, c'est une. Parce qu'en fait, j'ai quitté l'islam il y a longtemps, moi. J'ai tout compris.
Bon, ça, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir, Karim. On n'a pas besoin de savoir. Non, mais juste, je veux que vous parliez des lois.
Exactement. Ce que vous voulez. Déjà, c'est des choses que. Tout ce que vous êtes en train de te dire, c'est des choses qui s'appliquent dans un pays.
C'est pas dans un pays. Non.
Aujourd'hui, on n'est même pas gouverné par.
Abdel. Même dans les pays où il n'y a pas l'application de la peine de mort, tu n'as pas le droit.
Non, si, l'Arabie Saoudite.
Oui, là-bas, oui. Mais je parle des pays où on n'applique pas la peine de mort. Mais tu n'as pas le droit de commettre le délit d'apostasie. La mota, oui, voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe, elle a dit, moi je ne parle pas arabe.
La société va te rejeter direct. En fait, nous, le
Maroc. Tu vas en prison, tu sais ça.
Oui, du moment que tu es né musulman, genre en fait.
Tu n'as pas le droit d'en sortir, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça. Le bouddhiste, c'est pour
mais ça veut dire quoi?
Alors, attends, Nassima, explique-lui. Nassima,
explique-lui. Être né musulman.
Explique-lui, parce qu'il n'a pas compris.
Ça, tu es comme ça, tu
être
es
né.
En fait, je suis né.
C'est quoi, être né musulman? Comment on est musulman? Expliquez-moi.
Bah, comme quand on est juif, quand on est chrétien, dans une famille.
Non, c'est les parents qui font.
Mais c'est tes parents, c'est la famille, c'est le pays.
Non, je ne suis pas d'accord.
C'est normal, c'est les parents qui font leur religion.
Bah, écoute, quand tu éduques ton enfant, tu lui donnes certaines valeurs. Est-ce que tu trouves ça normal dans ce cas-là?
On parle pas de la morale et des valeurs, on parle de religion, là.
Mais forcément, c'est exactement la même chose.
Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
On est convaincu d'une chose. Ben, on va inculquer forcément cette chose-là.
Pourquoi l'inculquer, justement?
Alors, attends, le mot de la fin. Attends, baisse, on va laisser que Nassima. Alors, Nassima, je te laisse le mot de la fin. On va laisser pour. C'est une femme. Alors, vite, Nassima, le mot de la fin.
Merci beaucoup. Alors
vite, hein. Une seconde, là.
Il faut rien inculquer, il faut juste, comme disait monsieur tout à l'heure, il faut juste leur donner les valeurs et les principes qui sont essentiels dans la vie d'un être humain qui ne vole pas, ne ment pas, qui ne sont pas
et qui n'a rien à voir. Nassima, alors on s'est rendu compte ce soir, à travers Abdel, que finalement, il y a une méconnaissance totale. Exactement. Et quand on dit il n'y a nulle contrainte,
c'est ce que je disais tout au début du débat, ils ne savent pas.
Voilà, c'est ça. Nassima, reviens lundi si tu veux. On poursuit. Je t'embrasse et merci. Merci d'avoir participé au débat. Tu as été formidable. Merci à Karim aussi. Merci à Abdel. Merci à Rachid. Merci à tout le monde. Désolée pour Samy. Il y a d'autres qui sont en attente. Nora du Val-de-Marne et les autres revenaient lundi. Inch'Allah, le standard est blindé. Merci Nicolas. Bon week-end. À lundi.